BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Thomas Asportas.
18h sur BFM Business, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans Good Evening Business, on est en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir, et ben ça y est, jour J pour Bruno Le Maire, le ministre a présenté ce matin son bébé 2024, son projet de loi pour la simplification des entreprises, 50 mesures nous promet-il pour débarrasser les entreprises de la paperasserie, de la bureaucratie qui nous coûterait chaque année 3 points de PIB. Est-ce que le projet de loi est à la hauteur des attentes? On verra ça en direct avec nos experts jusqu'à 20h. Et puis avec le principal intéressé, justement, Bruno Le Maire, au micro d'Edwige Chevrillon. C'était ce matin à Bercy. Vous pourrez entendre l'interview à partir de 18h10. Sinon, l'actualité, c'est bien sûr ce gros plan social annoncé ce matin chez Casino, entre 1200 et 3200 postes supprimés. C'est le plus gros plan social de l'année en France depuis le début de l'année. Nous serons en ligne en 18h30 avec le porte-parole de l'intersyndicale de Casino. Et puis ça va mal chez Casino, mais sinon ça va bien dans l'ensemble sur le front de l'emploi. C'est ce que nous dit l'enquête annuelle de France Travail qui prévoit encore de très nombreuses embauches dans le privé cette année. On va essayer de comprendre pourquoi l'emploi en France résiste à toutes les conjonctures, quand bien même elles seraient mauvaises ou très moyennes comme en ce moment. Voilà le programme de Good Evening, c'est parti, on est en direct jusqu'à 20h.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance. Good evening business, le journal.
Et c'est donc bien sûr le jour J pour Bruno Le Maire qui a présenté ce matin à Bercy son projet de loi pour la simplification des entreprises. 50 mesures pour débureaucratiser, supprimer au maximum la paperasserie dans les entreprises. Le ministre s'est expliqué ce matin à Bercy au micro d'Edwige Chevrillon et explique pourquoi ces mesures devraient marcher alors que tous ses prédécesseurs ont échoué à simplifier. On l'écoute.
Toutes les propositions viennent du terrain. Elles viennent des patrons de TPE, de PME, des artisans, des commerçants, des indépendants. C'est remonté du terrain. Il y a eu des réunions publiques et une consultation très large par voie numérique qui nous a permis de faire attention à ce que nous disaient les patrons, les chefs d'entreprise, les indépendants. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un choc en une seule fois où on pense qu'on va tout régler. Ça n'existe pas. Ça va être un mouvement de fond régulier. Et chaque année, vous aurez un nouveau texte de simplification pour s'assurer qu'on continue à avancer dans la bonne direction. Puis le troisième élément de méthode qui est nouveau, c'est ce fameux test PME qui nous a été proposé et demandé par les PME. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle norme, une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, on vérifiera que ça ne coûte pas trop cher pour les entreprises.
Voilà, Bruno Le Maire au micro d'Edwige Chevrillon et interview à retrouver en intégralité à partir de 18h10 sur BFM Business. Sinon, je vous le disais, l'autre gros titre du jour, c'est Casino qui a dévoilé ce matin sa réorganisation et l'ampleur de son plan social. Bonsoir Pauline Tadevin. Il y aura moins de suppressions de postes que ce que craignaient les syndicats, mais le plan social reste quand même très dur, Pauline.
Oui, ces derniers mois, les syndicats avaient eu l'occasion de le dire. Ils craignaient jusqu'à 6 000 suppressions d'emplois sur la totalité du groupe. Ce sera au maximum 3 200, nous dit la nouvelle direction de ce groupe Casino, sur le siège historique de Saint-Étienne, qui compte actuellement 1 564 salariés sans les CDD. Un millier d'emplois est préservé, 554 disparaissent. Mais en tout, sur les fonctions sièges, 1293 suppressions nettes vont avoir lieu. On compte donc les sièges de Franprix et de Monoprix. En région parisienne, ce qui se passe, pour être très clair, c'est que pour préserver le siège de Saint-Étienne, dont la direction avait dit qu'il allait préserver la pérennité, maintenir la pérennité, Bruno Le Maire d'ailleurs,
engagement pris, voilà merci,
avait annoncé qu'il serait très attentif à cela. Pour préserver Saint-Étienne, on y transfère des dossiers qui étaient gérés jusque-là dans les sièges de Monoprix et de Franprix en région parisienne. Ces sièges sont donc touchés par ricochet. À cela, il faut ajouter des suppressions de postes dans les magasins qui n'ont pas encore trouvé preneur et aussi dans les entrepôts. On nous précise que ces chiffres-là peuvent encore évoluer si les magasins, par exemple, finissent par être revendus. Plusieurs réunions vont donc être organisées à partir de maintenant avec les syndicats pour préparer un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être finalisé, nous dit-on, au mois de septembre. En parallèle de ce plan, la nouvelle direction de Casino confirme aujourd'hui qu'il prévoit de réinvestir 1,2 milliard de dollars sur 3 ans. Il compte notamment embaucher des caissiers et des caissières dans les magasins qu'il garde.
Effectivement, 400 millions d'euros investis chaque année pendant 4 ans. Merci beaucoup.
Le porte-parole de l'intersyndicale
À 18h30, absolument. Et on vous retrouve aussi tout à l'heure. Pauline Tadevin, puis Casino, qui a aussi confirmé ce matin la création d'une alliance, d'une nouvelle centrale d'achat avec Intermarché et Auchan sur 10 ans pour créer la première centrale d'achat en France dans l'alimentaire. C'est en tout cas l'ambition des trois enseignes. Dans le secteur de la santé, à présent, 18h04, l'Europe lance aujourd'hui une alliance du médicament pour relocaliser au maximum sur le continent la production de médicaments critiques et pour lutter contre les pénuries qu'on connaît depuis la pandémie en France et en Europe. Hélène Cornet.
Il y a une alliance européenne pour les batteries électriques devenue un impératif stratégique. Il y en a une désormais pour les médicaments critiques construite sur le même modèle. Alliance qui réunit toutes les autorités de santé, les industriels et les associations de patients. C'est le dernier échelon du plan de bataille de Bruxelles pour éviter les pénuries de médicaments, 600 molécules environ. Alliance qui pourrait donc sécuriser l'approvisionnement lors de commandes groupées, un peu à l'image de ce qui a été fait lors de la pandémie, rehausser le niveau des stocks obligatoires ou encore favoriser les relocalisations en Europe. Sur un système d'entraide entre pays, un État pourrait par exemple produire le principe actif et un autre le produit fini. Mais la Commission le sait, elle a finalement peu de marge de manœuvre concernant ces médicaments, essentiellement des génériques et essentiellement produits en Asie. Pour les industriels d'ailleurs, la seule vraie réponse aux pénuries est surtout de relever les prix en Europe pour rentabiliser au mieux leur production et les inciter à relocaliser.
Hélène Cornet. Puis pour finir, on revient sur les très mauvais résultats publiés hier soir par Tesla. Vous l'avez vu, une chute du bénéfice au premier trimestre de 55%. Et pourtant, le titre se porte très bien aujourd'hui à Wall Street. Elon Musk, visiblement, a réussi à rassurer les investisseurs en annonçant hier soir la sortie plutôt que prévue de modèles abordables et l'arrivée dès cet été de ces fameux robotaxis. Le plan de relance de Tesla, expliqué par Justine Vassogne.
Le robotaxi est l'avenir de Tesla. C'est la conviction d'Elon Musk dans les cartons depuis des années. Les cybercabs, comme il les appelle encore, seront dévoilés le 8 août prochain. Leur production démarrera fin 2025. Les livraisons devraient-elles débuter l'année suivante? Elon Musk envisage même que les propriétaires de Tesla, 100% autonomes, les fassent fonctionner comme taxis quand ils ne les utilisent pas. Un pari que certains jugent risqué, car si certains robotaxis, ceux de l'américain Waymo par exemple, circulent déjà dans les rues de San Francisco ou de Los Angeles, d'autres s'y cassent les dents. C'est le cas de Cruise, filiale de General Motors, qui s'est vu bannir de Californie après un accident et qui a dû se séparer d'un quart de ses effectifs. Tesla n'est pas beaucoup plus heureux avec ses systèmes de conduite assistée. Le constructeur a dû récemment rappeler 2 millions de voitures car son autopilote était jugé défaillant. Selon le Washington Post, il aurait été responsable de 40 accidents mortels depuis 2016. Tout cela n'empêche pourtant pas Elon Musk de penser qu'à terme, ces robotaxis généreront plus de profit que ces voitures électriques.
Justine Vassogne, 18h07, on va sur les marchés.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Les marchés, on retrouve Étienne Brac en direct de Euronext. Bonsoir Étienne, quel est le verdict ce soir?
Bonsoir.
En clôture, en séance.
Du rouge, après deux séances dans le vert, un gain de 2% de séance, le CAC 40 lâche quelques points, moins 0,2% ce soir à la clôture, sous les 8100 points, 8091 points, avec une avalanche de résultats, et aujourd'hui c'était pas terrible, quand vous regardez notamment Eurofins qui perd quasiment 8%, qui a du mal à convaincre après la période Covid, quand vous regardez également Orange qui perd 4%, avec le groupe qui a perdu plus de 40 000 abonnés dans le fixe au premier trimestre, en France ça ne plaît pas du tout au marché, la valeur redescend à 10,65€, et puis surtout Kering, rendez-vous compte, le titre est au plus bas depuis 2017, avec un groupe qui a été plutôt cash, avec une perte, en tout cas une baisse de son marge opérationnelle, de son résultat au premier semestre, qui est attendu en baisse de plus de 40%. Donc forcément, ça ne plaît pas au marché, avec forcément Gucci qui est toujours en difficulté, moins 6,8% pour Kering ce soir à la clôture à 326€. À l'inverse, vous avez un secteur qui est en pleine forme aujourd'hui, c'est le secteur des semi-conducteurs, avec Texas Instruments qui a très bien publié aux États-Unis, idem pour ASM à Amsterdam. Donc suite à cela, vous avez ST microélectroniques gagne un peu plus de 5%. Et puis l'ensemble des valeurs liées aux puces qui sont très bien orientées, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, avec visiblement un point bas qui a été touché. Et donc le CAC 40 qui baisse sous un ensemble de publications en dessous des attentes aujourd'hui. Moins 0,2% ce soir à la clôture. 8091 points avant demain une séance qui sera cruciale avec notamment Sanofi, Hermès ou encore Schneider Electric.
Effectivement, de grosses valeurs à suivre. Merci beaucoup Étienne. 18h09, on marque une pause et dans un instant, c'est son jour. Bruno Le Maire, il a présenté son projet de loi simplification. Il explique tout à Edwige Chevrillon qu'il a vu ce matin et interviewé dans son bureau à Bercy.
FM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Le ministre de l'économie a donc présenté ce matin son plan d'action, simplification, son plan anti-paperasse, une montagne de paperasse qui devrait coûter à la France entre 3% de son PIB, voire 84 milliards d'euros. J'ai interrogé ce matin Bruno Le Maire, il était dans son bureau, sur le pourquoi de ce plan, et ce à 2 jours du verdict, vous le savez, des agences de notation sur la France, pour savoir quelles notes vont-ils attribuer à la France, dégradation ou pas, coïncidence heureuse, un hasard. Écoutez la réponse de Bruno Le Maire.
Trop de normes tuent la croissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire à l'occasion de la publication de son choc de simplification. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci de répondre à mes questions. J'en ai beaucoup, on a peu de temps. Vous devez filer au Conseil des ministres, parler justement de ce choc de simplification. 50 mesures, juste une question. Pourquoi vous allez réussir là où, j'ai envie de dire, tous vos prédécesseurs et tous les présidents de la République ont échoué, y compris Georges Pompidou, le général de Gaulle, Giscard d'Estaing, François Hollande qui a fait son choc de simplification. Pardon. Bruno Le Maire, vous allez réussir ?
On va tout faire pour réussir. Je mesure l'ampleur de la tâche, que simplifier en France, c'est très compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a pris une méthode qui est radicalement différente. Et je pense que c'est cette méthode qui va nous faire réussir. Premier point de cette méthode, c'est d'abord que toutes les propositions viennent du terrain. Elles viennent des patrons de TPE, de PME, des artisans, des commerçants, des indépendants. C'est remonté du terrain. Il y a eu des réunions publiques et une consultation très large par voie numérique qui nous a permis de faire attention à ce que nous disaient les patrons, les chefs d'entreprise, les indépendants. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un choc en une seule fois où on pense qu'on va tout régler, ça n'existe pas. Ça va être un mouvement de fond régulier. Et chaque année, vous aurez un nouveau texte de simplification pour s'assurer qu'on continue à avancer dans la bonne direction. Puis le troisième élément de méthode qui est nouveau, c'est ce fameux test PME qui nous a été proposé et demandé par les PME. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle norme, une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, on vérifiera que ça ne coûte pas trop cher pour les entreprises.
Mais il y en a déjà qui ont dit ça. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle loi, on nous a expliqué qu'il fallait faire un test PME. Et puis finalement, ça reste ici à Bercy et ça n'a ensuite aucune conséquence concrète. C'est toute la difficulté, peut-être, c'est le contrôle, l'application, notamment l'application de la loi et des décrets.
Allez, deux choses nouvelles, c'est que ce test PME, il aura une force législative, c'est pas un gadget, c'est vraiment un outil législatif. Et le deuxième changement très radical, c'est que le test PME avant était fait par les fonctionnaires. Ouais. Là, il sera fait par les chefs d'entreprise.
Comment,
le test PME, avec
fait
une plateforme, avec des entrepreneurs qui participeront à l'évaluation de la nouvelle règle, de la nouvelle loi, de la nouvelle norme. Ils diront, écoutez, vous êtes bien sympathique, c'est très bien votre norme, mais ça coûte tant pour les PME, c'est pas supportable. On a une compétition internationale, on a une compétition mondiale, on ne peut pas être les seuls à avoir cette nouvelle règle.
Oui, parce que vous avez dit aussi, je trouve un mot très important, surtout on l'entend beaucoup, il y a une musique autour de ça, une petite musique un peu néfaste, du déclassement européen. Et on sent bien qu'on est arrivé à un moment où la question, elle est sur la table.
La question est clairement sur la table. On a pris un retard en termes de productivité et en termes de richesse par rapport aux États-Unis qui est considérable. Il y a un risque de déclassement économique européen. Et nous voulons, avec le président de la République, nous avons porté ce sujet-là depuis maintenant plusieurs mois, faire de la question de la productivité européenne et donc de la prospérité européenne. C'est combien est-ce qu'on gagne à la fin du mois? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux avoir comme projet? Comment est-ce que je peux développer mon entreprise? Nous voulons en faire un sujet politique majeur, y compris pour les élections européennes. L'Europe ne peut pas être le continent de la norme. Elle doit être le continent de l'innovation, de la prospérité et de la richesse.
Mais oui, mais regardez ces indicateurs climat, ce qu'on appelle dans un jargon incompréhensible le CSRD. vous avez 1200 indicateurs qui vont être appliqués aux entreprises, là où du côté américain, c'est qu'une centaine. C'est donc bien, on est encore en plein dedans.
C'est bien pour ça que nous demanderons qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle norme, il y ait l'évaluation de son coût, que nous voulons une application la plus simple, la plus lisible possible de la directive CSRD, et que nous voulons mettre sur le débat, au cœur du débat européen, la question de la simplification et de l'allègement des normes européennes.
Mais ça va s'appliquer à cette directive ? C'est trop tard.
Non, c'est pas trop tard. Sur la transposition de la directive, oui. On sait bien que parfois la France est championne de la surtransposition. Il faut que la transposition soit la plus simple et la plus souple possible.
Il y a plein de mesures, on n'a pas le temps de les détailler. Évidemment, nous, on les détaille tout au long de cette journée sur BFM Business. La dépénalisation aussi pour les chefs d'entreprise, ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on vous a beaucoup réclamé sur votre plateforme.
C'est très important parce qu'un chef d'entreprise n'est pas un bandit en puissance. Et quand vous dites que si vous vous trompez sur un formulaire, sur une ligne que vous avez mal remplie, vous risquez la prison, enfin, très franchement, c'est totalement démesuré. Qu'on sanctionne les fraudeurs, évidemment. Qu'on fasse de chaque chef d'entreprise un fraudeur en puissance, certainement pas.
Comment est-ce que vous avez travaillé ? Vous avez travaillé avec des McKinsey, des cabinets de conseil ?
On a travaillé directement avec les fédérations professionnelles, avec les représentants...
Mais c'est une place de plateforme, il se passe en fait derrière tout ce que vous avez annoncé. Il se passe, enfin, on espère, beaucoup de choses.
Et il se passe énormément de choses.
Sur le à la fois, de l'administration.
Mais ça doit avoir des conséquences très immédiates et très concrètes sur le fonctionnement de l'administration. Mais le mode de travail, il est très simple, c'est d'aller voir les chefs d'entreprise eux-mêmes qui puissent s'exprimer. Moi, j'étais très surpris quand on a fait des réunions publiques. À chaque fois, même si c'était en plein milieu de la journée, vous aviez des centaines de personnes qui venaient. Et à chaque fois, j'ai senti de la colère, de l'exaspération, de la fatigue du patron qui vous disait « Mais moi, je peux passer jusqu'à 8 heures par semaine à remplir de la paperasse. Je ne suis pas engagé pour créer mon entreprise pour faire de la paperasse, mais je me suis engagé pour créer des emplois et de l'activité dans le pays. Oui. » On répond à leur demande.
Bruno Le Maire, vous connaissez bien les chefs d'entreprise. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Il vous dit ça depuis des années. J'ai envie de dire « Pourquoi maintenant ?» En plus, vous avez dit tout à l'heure que tout ça, ça coûtait une espèce de mastodonte bureaucratique. Ça coûtait 84 milliards. En tous les cas, c'est l'estimation du Sénat, 84 milliards à la France, en manque de productivité, 3%. On ne peut pas s'empêcher de penser que vendredi, il y a une échéance, une première échéance, ça s'appelle les agences de notation, notamment Fitch et Moody's. Comme par hasard, vous avez annoncé ça aujourd'hui, le Premier ministre, hier, c'était le volet sur les particuliers, ça tombe bien ?
Non, enfin là, c'est vraiment de la stricte coïncidence. Je rappelle que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet de loi, que j'ai proposé ce projet de loi simplification en 2022 au président de la République, en lui disant que c'est vraiment un sujet majeur. On a déjà fait pacte, on a fait la loi industrie verte, on a beaucoup allégé les contraintes administratives, mais il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur la simplification. Donc j'ai proposé ce projet de loi. Il y a 2 ans de travail derrière. Un hasard du calendrier si vous avez les agences de notation en fin de semaine. Et par ailleurs, c'est un projet qui s'inscrit, je le redis, dans le temps long. On doit simplifier, simplifier, simplifier tous les jours.
Et vous aurez votre majorité ?
Ah, je pense qu'on peut construire une majorité sur ce plan de simplification. C'est un projet qui dépasse de loin les clivages politiques. Prenez le seul exemple de la commande publique. On va drastiquement simplifier la commande publique. Vous aurez désormais un seul dossier à présenter. Une fois que vous êtes présenté comme entreprise pour soumissionner à un appel d'offres, ça vaudra pour tous les autres appels d'offres. Vous aurez une plateforme unique pour toute la commande publique de l'État, des hôpitaux, de la sécurité sociale, des opérateurs de l'État. Ouais. Vous aurez désormais un seul juge, le juge administratif. Vous aurez une seule règle sur les avances de trésorerie. 30% d'avance, 30% d'avance pour toutes les TPE. Je ne vois pas comment les Républicains pourraient s'opposer à un texte de simplification. Mais au-delà des Républicains, je tends la main à toutes les oppositions en disant, vous voyez bien que notre pays souffre de la complexité et souffre vraiment au sens de la charge mentale qui pèse sur les entrepreneurs. Nous vous proposons un texte de simplification radical qui va très loin. Nous vous proposons de vous engager dans cette voie de la simplification pour les années qui viennent. Soutenez-nous parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation française.
Vous êtes dans quel état d'esprit, donc, à quelques heures, j'ai envie de dire, de ce verdict des agences de notation ?
Très serein. Moi, les agences de notation font leur travail. Moi, je fais mon travail de ministre de Finances, qui consiste à rétablir les comptes publics, à atteindre les 3% de déficit en 2027, 2,9% très exactement, avec une stratégie de rétablissement des finances publiques ferme et sereine. Des réformes de structure. La stratégie est très simple.
Sur le résultat, il y a quand même beaucoup d'interrogations.
Maintenant, le résultat, il doit être acquis. 2,9% de déficit en 2027 avec une stratégie qui est sereine et ferme. Des réformes de structure qu'il faut poursuivre, l'indemnisation chômage ou la simplification, une réduction des dépenses qui est indispensable et la poursuite du plein emploi et de l'activité.
Est-ce que vous avez un plan B et un plan C au cas où il y a une dégradation de la France ?
Non, il y a un seul plan, c'est le plan de rétablissement des finances publiques serein et déterminé qui repose sur ces trois piliers, les réformes de structure, la croissance par l'emploi et la réduction des dépenses qui est indispensable.
Et vous êtes confiant ?
Je suis totalement déterminé. Le rétablissement des finances publiques, ça demande surtout beaucoup de détermination. Ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. Il faut une méthode, il faut du sang-froid et de la fermeté.
Une question, cette fois-ci, qui touche les entreprises. Une entreprise, en l'occurrence Casino, un dossier que vous suivez bien ici. On a appris ce matin, donc ça y est, maintenant c'est officiel, entre 1300 et 3267 suppressions d'emplois, avec quand même un maintien du siège à Clermont-Ferrand, mais ça fait beaucoup de licenciements. Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
D'abord, nous avons fait le maximum au cours des mois passés pour préserver le plus grand nombre d'hypermarchés, d'entrepôts et de supermarchés. En deuxième lieu, nous nous sommes battus pour sauver le siège de Saint-Étienne.
Oui.
C'était pas gagné d'avance. Le siège de Saint-Étienne est sauvé, il est préservé, et deux tiers des emplois du siège de Saint-Étienne vont être sauvés. C'était pour nous un point absolument décisif. Après, nous continuerons à veiller sur ce dossier, notamment sur le reclassement des salariés. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de le dire aux représentants du groupe. Vous devez faire le maximum pour reclasser les salariés, leur assurer une poursuite de carrière dans les meilleures conditions possibles.
Oui. Tout dernier point, Atos, autre gros dossier. Là aussi, une échéance dans quelques heures. Qu'est-ce que l'État sera vigilant ?
L'État,
est-ce que vous pouvez prendre, est-ce que vous pouvez rentrer au capital ?
L'État a déjà pris une action de préférence,
oui,
comme on dit, de golden share. Je pense que c'est un signal très clair. Notre détermination à protéger les actifs stratégiques d'Atos. Donc nous y travaillons là aussi de manière très active. J'aurai l'occasion d'ici la fin de la semaine de préciser les choses, mais nous faisons tout ce qui est nécessaire pour préserver les actifs stratégiques d'Atos.
Merci beaucoup. Merci,
merci Bruno Le Maire,
ministre de l'économie. Merci de nous avoir reçus.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Voilà, c'était donc Bruno Le Maire ce matin à Bercy, juste avant le Conseil des ministres, où il présentait justement son projet de loi pour ce plan de simplification. Bonsoir Guillaume Poitrinal.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez été justement co-président de ce Conseil de simplification sous François Hollande avec Thierry Mandon. Aujourd'hui, vous êtes un promoteur immobilier bas carbone, vous êtes le cofondateur de WO2. Alors, une question, pour ça je vous ai demandé de réagir à l'interview de Bruno Le Maire. Vous, ça a été, allez, quand même, il faut le dire, un semi-échec. Les obstacles, ils sont énormes. Comment, d'abord, vous jugez ce plan, ces 50 mesures présentées ce matin par Bruno Le Maire ?
Je suis ravi que le sujet, aujourd'hui, redevienne, quelque part, une priorité pour le gouvernement. Parce que la réalité, c'est que depuis 7 ans et même depuis 20 ans, on produit à peu près 30 000 mots obligatoires de plus chaque mois. 30 000 mots obligatoires de plus chaque mois, ça fait 1000 mots par jour, ça fait 100 mots.
Oui.
Donc la question, comment est-ce qu'on peut y arriver ? Je pense que la méthode qui est choisie est la bonne. Le sujet ce qui s'est produit il y a 10 ans, c'est qu'en fait, au bout de 18 mois, tout s'est arrêté. On va être très clair. Le problème de la simplification en France, c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème de consensus. C'est un problème de méthode. Et tant qu'on fera de la simplification en pointillé, c'est-à-dire 18 mois tous les 10 ans, on n'y arrivera pas.
Mm-hmm.
Donc, très clairement, on nous annonce là de la continuité. On nous annonce une loi annuelle de simplification. J'accueille ça.
Le printemps de la simplification à chaque année. C'était l'expression utilisée.
Chaque année, on nous annonce quelque chose qui est très important, Sylvie Chevrillon, c'est la fameuse étude d'impact, ce qu'on appelle le test PME. Parce que la plupart des députés et des sénateurs qui sont à l'origine de ces mesures de complexification, qui aujourd'hui étouffent les entreprises, ne connaissent pas les conséquences de leurs décisions, pas plus d'ailleurs que la haute administration, les conséquences de terrain. Donc c'est important d'avoir ce test PME.
Mais en même temps, là aussi, il faut que ça remonte du terrain. Bruno Le Maire l'a dit. Mais le problème, c'est qu'on a toujours le sentiment que les politiques, des ministres, même bien intentionnés, lancent des grands projets. Et après, ça se perd dans les méandres de la bureaucratie et de Bercy, par exemple. Si on parle de Bercy, mais c'est de la même chose aussi du côté des fonctionnaires.
Donc il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. D'abord, vous avez raison, Bercy ne suffira pas à simplifier la France. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sujets sont interministériels. Beaucoup de sujets sont à la fois à Bercy, mais aussi au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Environnement. Il y a énormément de ministères qui sont concernés. Donc il faut que le sujet soit porté par l'Élysée et par le Premier ministre, mais aussi par l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui a réellement la tutelle sur la haute administration. Et c'est l'Élysée qui est véritablement force de proposition et je dirais force et énergie pour ce type de réformes qui sont des réformes compliquées. Ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est qu'il faut quelque chose de continu. Les pays qui ont réussi leur simplification, je pense à la Hollande, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne pour partie, sont des pays qui se sont dotés d'outils de simplification qui étaient établis, permanents, et qui surveillait à la fois le flux, mais également le stock. Et il faut s'attaquer aux deux mots, parce qu'il y a un énorme stock de complexité, et puis il faut évidemment veiller à ce qu'on arrête ce flot ininterrompu de mesures de complexité.
Oui, parce que ça continue non-stop. Je prenais l'exemple, là, justement, des indicateurs de CSRD, l'indicateur climat que vous connaissez bien sûr, mais c'est vrai que c'est absolument incompréhensible lorsque vous interrogez les chefs d'entreprise, ils vous disent, mais attendez, avec ces 1200, alors 1200, c'est le chiffre maximum, hein, il faut être honnête, mais c'est complètement fou. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'a proposé ce matin Bruno Le Maire, c'est d'abord, dans la démarche, ou dans la méthode, comme vous le disiez à l'instant, c'est d'avoir une plateforme où peut s'exprimer un chef d'entreprise ou peuvent s'exprimer des chefs d'entreprise. Là, il y a une interaction qui est un peu différente que d'être une interaction entre la bureaucratie et le ministère.
C'est très important parce qu'en fait, le vrai sujet, ceux qui sont confrontés à la complexité administrative, ce sont évidemment les PME beaucoup plus que les entreprises du CAC 40. Ouais. J'ai eu la chance de diriger une entreprise du CAC 40. Je peux vous dire qu'entre le patron et la complexité administrative, vous avez des armées entières pour traiter les problèmes. Donc en fait, c'est bien le tissu de PME, c'est bien le tissu de start-up. Et puis, évidemment, les cadres intermédiaires dans les grosses entreprises qui sont concernés, qui sont confrontés à la complexité administrative. Permettez-moi d'ajouter aussi que dans les préfectures, vous avez des gens qui souffrent de la complexité administrative. Les cadres administratifs, les cadres de la puissance publique ne sont pas des sadiques qui veulent faire souffrir tout le monde. Si vous interrogez un préfet, si vous interrogez un professeur d'université, si vous interrogez un chercheur, j'étais avec un chercheur hier soir, il souffre aussi de cette complexité administrative. Donc il faut être à l'écoute de tous ceux qui sont là, sur le champ de bataille de la complexité administrative. C'est là où on va trouver les bonnes réponses.
Oui, alors je dirais que c'est intéressant parce qu'il a dit, là, finalement, aujourd'hui, on était un peu dans Balzac, dans le Kafka, et donc c'est contre le 21e siècle. On voit bien que, notamment, l'intelligence artificielle, tous les moyens technologiques qu'utilise, du reste, très bien, l'administration fiscale, c'est sans doute ce qui va faire basculer vers du mieux-disant. Lorsque le Premier ministre, qui, lui, a présenté le volet sur les particuliers, a parlé du fameux Albert, à l'intelligence artificielle qui fait que maintenant on a une réponse en 3 jours au lieu d'avoir une réponse en 7 jours, c'est là où il peut vraiment se passer des choses, peut-être plus qu'à votre époque, Guillaume Poitrinal.
Peut-être, probablement, mais également, Edwige Chevrillon, je pense qu'il faut s'occuper du fond, c'est-à-dire que l'automatisation de la souffrance bureaucratique, c'est vrai que c'est mieux, c'est clairement une manière d'alléger la souffrance, hein, c'est un peu le médicament, hein, c'est l'antidouleur. Mais à la fin, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps parce qu'il y a à la fois trop d'autorités administratives. On n'a pas assez de créer des autorités, des niveaux de collectivités locales, des niveaux de contrôle, des commissions indépendantes. Donc on a trop de chefs dans l'administration.
Merci,
pour faire
on a trop de choses à dire.
Et on a trop de mots dans la loi.
Merci beaucoup Guillaume Poitrinal. Tout de suite, on retrouve Thomas Asportas qui nous apporte toute l'info. Merci.
18h30 sur BFM Business, l'Allemagne relève légèrement sa prévision de croissance pour 2024 de 0,2 à 0,3% après une récession de 0,3% l'année dernière. La coalition admet une perte de compétitivité de la première économie européenne, mais elle observe aussi des signaux encourageants sur les prix de l'énergie et de l'inflation. Le moral des entrepreneurs et les derniers indices PMI sont en nette amélioration. Boeing a publié aujourd'hui ses résultats du premier trimestre et c'est un petit peu moins pire que ce que craignaient les marchés. Le groupe a réduit ses pertes à 355 millions de dollars contre 425 l'année dernière à la même période. Mais ça reste quand même très dur pour Boeing qui publie pour la première fois depuis 7 ans un chiffre d'affaires en baisse de 8% à cause de la forte baisse de ses livraisons d'avions. La verrerie Duralex est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans avec une période d'observation de 6 mois. Le tribunal espère trouver un repreneur. 230 emplois sont en jeu. Une nouvelle audience est fixée au 5 juin. L'entreprise a été gravement touchée par la hausse des prix de l'énergie et elle avait obtenu un prêt de 15 millions d'euros de la part de l'État. Et puis pour finir, la SFAM, filiale d'Indexia et courtier en assurance pour produits multimédia, est placée aujourd'hui en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui réclamait 11,7 millions d'euros de créances. La SFAM fait aussi face à des procédures au civil lancées par des consommateurs et elle sera jugée fin septembre pour pratique commerciale trompeuse. 18h33, on marque une pause et on se retrouve dans un instant dans Good Evening Business avec Audrey Tcherkov et tous nos experts. À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Emmanuel Lechypre, bonsoir.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon, vous êtes resté sur le plateau. On va échanger sur ce projet de loi de simplification de Bruno Le Maire. Vous l'avez reçu ce matin, plutôt à l'instant. Donc c'est un peu son bébé. C'est son bébé de 2024.
Ça fait 2 ans qu'il travaille dessus.
Oui, mais ça y est, voilà. En tout cas, ça sort. 50 mesures pour en finir avec la paperasse qui coûterait 3 points de PIB par an à l'économie française. Il vous a convaincu ?
Ah, c'est difficile à voir, faut voir, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours la question, c'est que les intentions sont là. Après, c'est la manière dont on arrive à faire bouger, évoluer les choses. Il y a 2-3 points positif, je trouve, notamment cette fameuse... D'abord, dans la méthode, c'est de s'être appuyé sur des chefs d'entreprise, notamment PME, TPE, parce que le problème, il est surtout là. Alors, il s'est appuyé sur eux, il a fait les tours de France, il y a eu des revendications, notamment sur un sujet important dont on a peu parlé, mais c'est sur la dépénalisation des chefs d'entreprise. Il dit, ce ne sont pas des bandits, il y en a toujours, évidemment, mais enfin, la majorité, ce ne sont pas des bandits, donc le fait de pénaliser certains, le fait de ne pas avoir coché la bonne croix, c'est quand même inadmissible. Donc ça, c'était sur la méthode, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai trouvé aussi sur la commande publique d'avoir une seule plateforme où vous pourrez juste mettre votre numéro de siret au lieu d'avoir à chaque fois à remplir des dossiers. Là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif parce que c'est quand même 170 milliards d'euros de commandes. C'est donc quand même énorme. Et puis en plus, il y a l'autre point important aussi, c'était sur le fait que il y aurait une sorte de name and shame sur les collectivités locales.
Ah oui, mauvais payeurs.
Ouais, les mauvais payeurs. Et les collectivités locales, ils devront payer 30% d'avance. Donc ça fait quand même une trésorerie très importante pour les chefs d'entreprise. Donc tout ça, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. Après, il faut voir son test PME. Je dirais, il faut...
C'est, la ça, réussite, c'est une des mesures.
Elle viendra sur... le succès ou pas du test PME. Voilà, à mon avis, c'est là le point.
On rappelle ce que c'est. Donc, entre le moment où le bureau de l'Assemblée ou du Sénat, par ailleurs, met un texte à l'agenda et le moment où il passe en examen dans l'hémicycle, eh bien, la mesure sera testée dans les PME qui sont directement concernées.
Pas uniquement, ça peut aussi être un peu. Ça peut être un décret, ça peut être.
Une norme.
Transposition, une norme supplémentaire, si on peut dire.
Tout ce qui peut arriver sur la tête d'une entreprise. Et d'autres pays européens y arrivent, alors on va peut-être bien finir par y arriver.
Pourquoi pas nous,
Emmanuel? Comment vous regardez ces 50 mesures globalement? Ça va dans le bon sens? C'est encourageant?
Alors, c'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça marcherait? Puisque on a quand même dans l'histoire tous les gouvernements, tous les présidents de la République qui se sont penchés sur le sujet. Et alors, si vous reprenez depuis De Gaulle, avant même la Deuxième Guerre mondiale, mais là, bon, on va pas remonter non plus jusqu'au Calendrier, mais De Gaulle, Pompidou, la complexité administrative est une calamité. Ouais. Giscard, il avait une très belle formule, c'était la marée blanche de la paperasserie doit être refoulée. Voilà, et puis après, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, etc. Et ils se sont tous cassés les dents, ils n'y sont pas arrivés. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci la donne change? D'abord, il y a quand même une volonté, et une volonté assez ancienne. Bruno Le Maire, ça fait 2 ans qu'il travaille sur le sujet. Donc, on peut pas dire que depuis qu'il a été élu, Emmanuel Macron n'avait pas cette préoccupation en tête. Il y a une contrainte qui est plus prégnante que jamais, qui est que finalement, quand vous cherchez des mesures qui pourraient stimuler la croissance, réduire la dépense publique et qui ne coûtent rien, et ben la simplification, c'est quand même un levier absolument fabuleux. Là, la simplification, ça ne coûte rien, vous faites même des économies, et en plus ça a des effets positifs sur la croissance.
Non, mais
il y a
d'accord.
cette contrainte. Oui. Ajoutez à ça le fait qu'on a quand même des innovations technologiques qui aujourd'hui apportent certains leviers d'efficacité qu'on n'avait peut-être pas il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Moi, dans les 50 mesures...
L'intelligence artificielle, par exemple.
Il y a quand même... Moi, j'avoue que ce test PME, je trouve que enfin on a quand même finalement une espèce de maquette et d'évaluation de ce que pourraient donner ces mesures de simplification.
Oui, or, et puis c'est du bon sens.
Que le nombre de réformes en France qui échouent parce qu'elles ne sont pas évaluées, parce que donc ça c'est
pas
quand même quelque chose d'intéressant.
Du moins elle reste à Bercy.
Les CERFA, c'est quand même, attendez, ça, au quotidien, c'est quand même les 1800 CERFA supprimés petit à petit, c'est quand même très bien. Donc moi j'ai envie de dire peut-être plus que sous François Hollande, où on nous vendait un choc de simplification, et sous les anciens, sous les anciennes administrations, moi, j'accorderais un peu plus de crédit à celle-ci pour toutes les raisons qu'on vient de
parler. Oui, c'est ce qu'a dit Guillaume Poitrinal, que j'avais aussi à l'instant, qui lui donc a été coprésident de ce fameux conseil
comme il a
de la
souffert.
Simplification, comme il a
comme
souffert,
il a souffert.
Avec Thierry Mandeau. Pour lui aussi, le test PME, c'est vraiment le point qui
la mesure
qui
phare.
La mesure qui revient tout le temps.
Basculer, quoi.
Et voilà. Guillaume Poitrinal, d'ailleurs, rappeler qu'en France, aujourd'hui, il y a 30 000 mots obligatoires qui sont créés par mois. C'est quand même assez colossal, parce qu'on avait en tête les 10 000 décrets pris et votés ces 10 dernières années. Mais c'est sûr que sur les textes, enfin, on n'a qu'à regarder le Code du travail, c'est quand même assez, assez foudroyant. Oui. Quoi.
Cela dit juste, c'est la question que je vais poser à Bruno Le Maire. Vous voyez ces fameux indicateurs, là, climat, CSRD.
Ouais.
Bon, 1200
sur le papier, c'est très bien. Et dans la pratique.
Mais c'est infernal, c'est l'enfer. Et du reste, les chefs d'entreprise n'arrêtent pas de se plaindre là-dessus en disant mais c'est complètement fou. Premier test, on va voir si effectivement dans la transposition de cette directive européenne, si la France va pour une fois transposer d'une manière beaucoup moins
soft.
Ça va être un très bon indicateur. Et puis une question, je n'ai pas eu le temps de lui poser. Le fameux, on en parlait hier, ce même micro, le CETU là, vous savez, le compte d'épargne, etc. Ouais. Véritable usine à gaz sur le principe, formidable, mais qui risque d'être une usine à gaz pour les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il était pour ou contre ça? Ça serait très intéressant à savoir.
La prochaine fois. Ouais.
Alors par contre, il y a quand même. Alors la complexité, elle est quand même plus française qu'étrangère. Hein. Ouais. Si vous prenez les normes, par exemple, vous en avez 400 000 en France, vous en avez quand même 50 000 en Allemagne, ce qui fait presque 10 fois moins.
Dans l'immobilier,
mais
notamment, c'est
différent. À cette avalanche de normes, de règles, etc., il y a en plus, au-delà de la complexité, un phénomène français qui est l'instabilité. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un pays dans lequel on change aussi souvent aussi les règles, les normes, etc. Par exemple, le Code du travail, si vous regardez depuis 20 ans, il est modifié quasiment tous les trimestres.
On a 62 codes en vigueur en France. Hein.
Et le Code du travail, je vous dis, tous les trimestre, quasiment, il est modifié. La durée de vie des lois est extrêmement...
Mais y compris depuis Emmanuel Macron, pour ne pas dire, il y a même
changé,
une inflation.
Ouais.
Hein, donc,
les impôts, c'est pareil. 20% du code des impôts change chaque année. Et avec, effectivement, une inflation de mots dans les lois. Je crois que, attendez, il y avait nos lois contiennent 60% de mots de plus aujourd'hui que les lois adoptées il y a 20 ans.
Ah oui, c'est ils s'engagent à parler français. Moi, j'ai adoré cette expression.
Oui, à traduire.
Oui. Ouais, ouais. Donc, là, on a envie de dire, bah, heureusement qu'ils parlent français.
Oui, et puis non, c'est vrai que ça sera aussi le fameux dites-le nous qu'une fois. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de répéter, de réécrire
un coffre fort. Ça, c'est un coffre fort numérique où toutes les administrations pourront aller servir pour aller
chercher
les
documents des entreprises. Ça va être un gain de temps colossal.
Ça aussi, c'était réclamé de longue date par les entreprises. Mais à la fin de tout ça, le but du jeu, c'est quand même de faire de la croissance. Vous le disiez, on n'a plus les moyens pour faire autrement. Est-ce qu'en ayant moins de paperasse, on aura plus de croissance dans le pays?
C'est ce que dit Bruno Le Maire. 3%
de PIB en moins.
Ça coûte 3% de PIB, mais est-ce qu'on va vraiment... Parce qu'il a dramatisé l'enjeu. Il a dit à cause des normes, on risque un déclassement...
européen.
Enfin, c'est quand même dingue. L'Europe est déclassée à cause de la bureaucratie. C'est si grave que ça, la bureaucratie.
Prenez un exemple qui est assez facile à comprendre. Quand vous avez un chef d'entreprise qui consacre 3 ou 4 heures par jour... à faire de la paperasserie plutôt
8 heures par semaine, chiffre avancé par Bruno Le Maire.
8 heures par semaine, donc plutôt 2 heures par jour.
Ça reste énorme.
À faire des formalités, de la paperasserie, plutôt que d'aller chercher les clients, plutôt que d'aller chercher à innover en matière de produits et de vente, vous voyez que oui, c'est quand même extrêmement handicapant. Donc oui, avoir des règles et des normes qui sont simples et efficaces, c'est rendre... du temps de croissance en fait aux entreprises, et oui forcément c'est un moteur de croissance, et encore une fois c'est aussi un moteur d'économie, économie de temps mais économie d'argent.
Et toute dernière question, parce qu'après on va passer au dossier casino qui est évidemment aussi incontournable aujourd'hui, il dit au-delà des réformes, au-delà du projet de loi, le plus important pour moi c'est de changer la culture, l'état d'esprit de l'administration.
Bah oui.
Qu'elle soit plus là pour fliquer les patrons mais qu'elle soit là pour les aider. Est-ce que l'administration est à ce point anti-patron?
Anti-entreprise, presque.
À ce point, est-ce que l'administration, c'est l'enfer français?
Non, mais on est dans une culture de la défiance vis-à-vis des entreprises de la part de l'administration, alors qu'il y a beaucoup de pays où on est plutôt, de la part des administrations, dans une culture de plus bienveillante.
Ouais, on n'est pas business friendly, comme on dit.
Et c'est vrai que l'administration est plutôt... méfiante vis-à-vis des entreprises. Regardez les contrôles, regardez l'URSSAF, regardez l'inspection du travail, regardez les demandes de justification, regardez tous les délais, Edwige l'a évoqué pour la construction, tous les délais de formalité qui sont beaucoup plus longs en France pour obtenir un accord, pour construire, vous êtes agriculteur, vous voulez construire un nouveau hangar, etc. C'est beaucoup plus compliqué en France
qu'ailleurs, etc. Oui, absolument. Donc, après, c'est vrai que les administrations elles-mêmes se sont mises au charbon, je dirais. Oui. Quand on a décidé de créer le fameux guichet unique, c'était censé simplifier la vie de tout le monde, sauf que ça a été une catastrophe totale.
Ça n'a pas marché pour le coup.
Mais vous avez des. C'est pour ça que vous avez des tas de serpents de mer.
L'enfer.
Rappelez-vous le dossier médical qui devait être finalement. Ouais. On devait tous avoir notre dossier médical qui nous suivrait partout, etc.
Ça marche mieux pour le coup. Allez, Edwige, mot de la fin et on passe à
quasiment. Ça marche pas vraiment non plus.
Non, mais il y a déjà un embryon de dossier.
Non, juste ce que je voulais dire, c'est quand même, on voit l'administration fiscale. Elle a quand même un peu évolué dans son rapport au chef d'entreprise et à l'entreprise. En revanche, à ce moment-là, si vous avez un petit peu plus de liberté, si on enlève plus de normes, plus de contraintes, à ce moment-là, il faut qu'il y ait aussi plus de contrôle. Voilà, c'est un peu le donnant-donnant.
Bon, allez, c'est que le début. Et maintenant, le projet de loi sera examiné à partir du 3 juin au Sénat. L'autre actualité du jour. Comment ?
Ça sera la rentrée, en fait, avec le Sénat d'abord, et puis la rentrée ensuite, et commission mixte paritaire, je crois, en septembre.
On va suivre cela de près.
Alors, on suit aussi, évidemment, ce qui se passe chez Casino, puisque ça y est, on est fixé sur l'ampleur du plan social. La nouvelle direction a dévoilé ce matin son plan de réorganisation. C'est rude, on en parlait dans le journal avec Pauline Tadevin, qui nous a rejoint. Rebonsoir, Pauline.
Bonsoir.
On aura, à minima, 1200 suppressions de postes et jusqu'à 3267. Nous sommes en ligne avec Jean Pastor, délégué CGT de Casino et porte-parole de l'intersyndicale. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous nous entendez, Jean Pastor ?
Allô ?
Oui, vous nous entendez ?
Un peu lointain, mais je vous entends, oui.
Un peu lointain. Bon, on vous entend bien. Cher monsieur, est-ce que... Donc les chiffres, on l'a dit, sont rudes. Ils sont quand même un peu moins durs que ce que vous craignez, puisque si je ne dis pas de bêtises, vous attendiez au pire à 6000 suppressions de postes.
Je vous entends vraiment très mal.
Est-ce que vous nous entendez, Jean Pastor ? Bon.
Je vous entends, mais de façon très lointaine, oui.
Bon, on va vous rappeler.
Alors, non, la question qu'on vous posait, c'est est-ce que vous êtes quelque part soulagé par les chiffres qui ont été annoncés ce matin par la direction de Casino ?
Ben non, aujourd'hui c'est un triste jour pour les salariés du groupe Casino qui voient vraiment l'épilogue de l'histoire Casino qui est en train de s'inscrire devant leurs yeux, mais qui va se faire sans eux. Bien entendu que le nombre est assez impressionnant, c'est pratiquement 15% de l'effectif, Et maintenant, il y a toute une histoire, il y a toute une information, consultation, une négociation d'un PSE qui va se mettre en place et qui va montrer l'attachement de la nouvelle direction au bon loyer service des salariés Casino par rapport à des indemnités extra-légales.
La fin du PSE, c'est septembre, hein, je crois. Jean Pastor, qu'est-ce que vous pensez de ce plan qui est mis en œuvre? Parce que finalement, on a maintenu la pérennité du siège de Saint-Étienne. Hein, c'était un engagement de Bercy au prix de postes dans les sièges des régions parisiennes de Monoprix et de Franprix. C'est bien ça ce qui s'est passé. En fait, on transfère des dossiers de Franprix et de Monoprix des sièges franciliens vers Saint-Étienne pour qu'il y ait toujours de l'emploi dans le siège de Saint-Étienne, puisque c'était un engagement de la nouvelle direction.
Ah oui, c'est ce qu'on observe en ce moment. On pensait qu'il allait y avoir une plus grosse saignée au niveau du siège de Saint-Étienne. Mais on s'aperçoit que pour faire plaisir au pouvoir politique en place et local, ils ont fait très attention. Par contre, il y a eu une autre histoire, c'est qu'en fait, il y avait des activités qui étaient externalisées, qui vont être remises à l'intérieur de l'entreprise, ce qui a peut-être fait eu l'effet d'un moindre plan social plus important au niveau des sièges.
Mais alors, est-ce que vous craignez d'autres plans sociaux après celui qui vient d'être annoncé ce matin?
Pardon ?
Est-ce que vous craignez d'autres plans sociaux après celui qui vient d'être annoncé ce matin ?
Excusez-moi, je vous entends vraiment pas.
Est-ce que vous craignez, on va essayer avec un autre micro, pardon, désolé si la liaison est mauvaise, vous craignez d'autres plans sociaux après celui qui a été annoncé ce matin ?
Ah ben déjà, je veux dire, celui-là, il est quand même d'une grande ampleur. Quand on sait que le groupe Casino n'a pas l'habitude de faire des plans sociaux légaux, en fait, on en faisait, mais c'était plutôt de façon dissimulante, faisant partir les salariés par des arrangements amiables. J'espère que pour les salariés qui vont rester, ça sera le premier et le dernier, quoi.
Ouais, Pauline Tadevin.
Jean Pastor, c'est une nouvelle direction qui va mettre en œuvre ce plan, du coup, après la cession de tout le parc d'hypermarchés et de supermarchés. L'ère Naouri se referme, refermé. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle direction? Quelles sont les relations que vous avez avec elle?
Ben, les relations, elles sont un peu plus ouvertes que ce qu'on avait avec l'ancienne direction, qui était carrément aux abonnés absents. Jean Naouri, personnellement, je l'ai vu deux fois dans ma vie. En 32 ans de carrière, je l'ai vu deux fois. Bon, pas la dire, on l'a vu un peu plus de fois. Après, c'est l'actualité qui a fait qu'on le voyait plus souvent. Mais il est plus accessible que l'ancien PDG. Voilà. En fait, on peut s'apercevoir que c'est plutôt un commerçant qu'un financier. Jean-Charles Naouri, c'était un financier pur jus qui se croyait au-dessus de tout. Et finalement, on s'aperçoit que c'est le Bernard Madoff à la française, quoi.
Donc, vous avez un peu plus confiance, a priori, dans la nouvelle direction? Les premiers contacts sont encourageants?
Alors, les premiers contacts sont... Non, je disais qu'avec l'ancienne direction, il n'y avait pas de contact. C'était le PDG, c'était quelqu'un de lointain. Je ne vais pas dire que... Après, je ne le connais pas, Palladi, en tant que tel, mais je veux dire, déjà vous avez un visage de la direction en face de vous, voilà. Pas quelqu'un de lointain, voilà.
Puisque vous avez initié ce contact...
Après, c'est les actes. On verra les actes qui sont mis en place. C'est ça qui va créer la confiance.
Bien sûr. Est-ce que vous avez des informations? Il reste 30 super et hypermarchés qui sont dans la balance, qui n'ont pas trouvé de repreneurs. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le sort de ces 30 grandes surfaces? Est-ce que vous avez des informations?
Alors, d'après ce qu'on nous a expliqué la dernière réunion, donc il y en aurait 26, mais il y en a un de plus, d'après ce que j'ai compris, que Intermarché ne veut plus, donc qu'il a restitué à Casino, donc ça porterait le nombre à 27. Sur les 27, il y en aurait 18 qui auraient peut-être des repreneurs potentiels, je parle bien au conditionnel, potentiels, et 9 qui n'auraient pas de repreneurs à l'heure actuelle. On espère que tous les magasins puissent avoir un repreneur à terme pour éviter de se retrouver avec des salariés qui soient inclus dans le PSE.
Bien sûr.
Comment ça va au siège de Franprix et de Monoprix, là, en région parisienne, ce soir, du coup?
Ben, je pense que le siège de Paris se croyait peut-être un peu préservé après toutes les annonces qui ont été faites, et finalement ils s'aperçoivent qu'eux-mêmes n'ont pas été préservés parce qu'il y a pratiquement 750 emplois qui vont les concerner. Suppression d'emplois qui vont les concerner.
Et pour les entrepôts, est-ce que la situation est délicate aussi?
Alors, les entrepôts, sur les 12 entrepôts qui sont en propre, il y en a un qui part à Auchan, un à Intermarché, il y en a 4 qui seraient fermés pur et simplement d'après les premières annonces, et il y en a 4 autres où il y aurait des baisses de réduction d'effectifs assez drastiques.
Est-ce que pour vous ce nouveau casino est viable?
Ben, viable sur le... Alors en fait, c'est vrai que là où il y a peut-être une chance de viabilité, c'est qu'ils ont rejoué une centrale d'achat qui devient la plus grosse centrale d'achat de France, donc ce qui pourra permettre au groupe Casino de pouvoir peut-être tirer son épingle du jeu malgré la baisse de son chiffre d'affaires. Après, il y a certains analystes qui disent que le groupe est devenu tellement petit que est-ce qu'il aura une chance de perdurer au-delà de 3 ans? Après, c'est toute la question qui pourra se poser à ce moment-là.
Oui, après, il y a des marques qui restent quand même des pépites, Monoprix, entre autres.
Oui, alors ça, c'est des marques, c'est les joyaux de la couronne.
Oui. Ouais.
C'est
dans lesquels il faut beaucoup
les emplacements
réinvestir.
De Monoprix, oui, sont inestimables au niveau de la région parisienne, oui, bien entendu.
Oui, alors après, la direction confirme justement, puisque Pauline parle d'investissement, que sur les 3 prochaines années, c'est 1,2 milliard d'euros qui vont être investis de la part des nouveaux actionnaires.
Ah oui, alors ils se sont engagés à mettre 1,2 milliard jusqu'en 2028 pour rénover ces magasins. Donc on verra. On espère qu'ils n'embellissent pas la mariée pour mieux la vendre plus tard.
Oui, donc vous êtes quand même pas spécialement rassuré ce soir. Vous, à moyen terme, vous vous dites que d'autres opérations vont avoir lieu autour de Casino.
Elles pourraient avoir lieu, oui. Oui. Alors, oui. Parce que là, il faut savoir, c'est que les salariés et les syndicats de Monoprix ont appelé à la grève pour le 26.
D'accord. Voilà. Ça, c'est ça, ouais.
Pour contester le montant de la participation, parce qu'ils estiment qu'ils ont été lésés dans le montant de la participation. Voilà.
Bon, merci beaucoup Jean Pastor d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Votre réaction à la suite de l'annonce du plan de réorganisation de Casino. Il nous reste 3 minutes les uns et les autres. C'est quand même un peu une douche froide, hein, quand on entend Jean Pastor, quand on voit tous ces chiffres.
Oui, c'est une douche froide. Sauf que Pauline, on en parlait il y a quelques semaines, et on parlait de 6000 suppressions d'emplois.
Non, mais oui, mais même c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ce soit 3300 ou 6000, c'est énorme en fait.
Ouais.
On peut pas se réjouir d'un certain
casino,
côté que ce soit moins que 6000. Oui, 6000 ça aurait été énorme, mais 3200, ça reste considérable. Ouais. Et c'est effectivement c'est beaucoup de suppressions. Alors ces syndicats attendaient de pied ferme ces chiffres, parce qu'en fait ça fait des semaines et des mois qu'ils disent nous on veut des chiffres, on veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Bon voilà, la nouvelle du jour c'est que maintenant au moins ils savent à quoi être comment être fixés, sauf pour ceux effectivement qui bossent, qui travaillent dans ces magasins qui n'ont pas encore trouvé de repreneur, ou pour les entrepôts dont le sort n'a pas été fixé, pardon.
On a déjà eu ce débat avec Pauline. Voilà, la question qui m'interpelle, c'est en fait c'est quoi la stratégie, c'est quoi aujourd'hui Casino, ils ont vendu tous les hyper, donc d'accord, il reste Monoprix.
Mais quand on parle aux différents acteurs du secteur, non, mais même les concurrents reconnaissent que ce qu'ils ont gardé, c'est des pépites en fait, c'est des choses. Il y a personne comme eux sur ce.
Voyez-vous, quand vous pensez à ce qu'était le groupe Casino,
bien sûr,
ça
n'a plus rien à voir.
Bien sûr, mais c'est des choses qui, c'est
peut-être même changer de nom.
Des magasins qui peuvent, c'est pas du tout à l'ordre du jour de
le groupe Casino, ouais, non.
Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour.
D'accord.
Ce sont des, voilà, c'est l'attachement à Monoprix, l'attachement à Franprix, le développement de Franprix qui.
Non, mais c'est bien.
Les seules marques qui vont rester n'auront plus rien.
Mais il restera les supérettes Casino.
Alors attendez.
Ce qu'il faut quand même souligner, c'est
Emmanuel.
Après, si on regarde quand même l'état du secteur du retail dans le monde, on a quand même une forme d'exception française avec enfin, je veux dire, quand vous regardez ce qui se passe autour de nous, ce secteur de la distribution, il est quand même partout en grande difficulté.
Ah non, regardez chez les Carrefour aujourd'hui, ils sont plutôt bons.
Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une exception française qui fait qu'on a quand même un nombre d'enseignes à l'étranger.
Mais la reconfiguration n'est pas terminée.
Vous n'avez pas souvent autant d'enseignes. Aujourd'hui, en France, il y a quoi? Il y a 5-6 grandes enseignes qui, à l'étranger, vous en avez souvent aux États-Unis, vous en avez 2-3. Pareil chez nos concurrents. Donc il y a quand même une recomposition du paysage de la distribution qui s'impose, et il est évident qu'il n'y a sans doute pas de place aujourd'hui pour tout le monde.
Et c'est pas terminé.
Avec des systèmes très différents, parce que certains sont des sociétés privées, anonymes, et d'autres sont que...
Oui, après, c'est un groupe aujourd'hui qui est en effet beaucoup plus petit, mais quand on est plus petit, on est aussi beaucoup plus agile. Ça va être beaucoup plus facile de se repositionner, de se redéployer. Et il ne faut pas oublier, en effet, qu'ils sont en train de créer la plus grande centrale d'achat de France.
Oui, c'est pas tout seul. Hein.
Ça, c'est intéressant.
Non, évidemment, mais c'est hyper stratégique.
Qui prend le lead, avec Auchan, avec Casino. Donc, ça va être effectivement une opération gagnant-gagnant pour ces trois-là, surtout pour Casino, qui a bien besoin de cette forme
d'une locomotive.
Voilà, et de ce soutien. Aussi pour Auchan, qui n'est pas super en forme sur le marché français, et donc à qui ça a profité, qui apporte aussi des choses dans le panier de la mariée, etc. Et voilà, et là-dedans, il y a aussi Intermarché qui trace la route, parce que vous parliez du modèle. Les indépendants aujourd'hui, que ce soit Intermarché, que ce soit Leclerc, que ce soit aussi les
Système U,
le groupement. Bon, c'est eux qui profitent en tout cas du moment.
C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Merci, merci infiniment à tous les trois, Edwige Chevrillon, Pauline Tadevin, Emmanuel Le Chypre. Merci à vous, Audrey.
Mais merci à vous, Thomas. On reste ensemble, on est en direct jusqu'à 20h.
Absolument, on retrouve nos experts à partir de 19h10. Si vous avez raté la première heure de Good Evening, pas de panique. Déjà, un, vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche sur l'écran. Et puis sinon, vous nous retrouvez sur notre site internet et notre appli BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
19h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening avec en direct jusqu'à 20h Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, c'est le sujet du jour évidemment. Ouais. Le jour J pour Bruno Le Maire, le ministre a présenté ce matin son tant attendu projet de loi de simplification pour les entreprises. Est-ce que ces 50 mesures sont à la hauteur des attentes des patrons, des attentes très fortes des chefs d'entreprise? On décortique tout ça en direct jusqu'à 20h Audrey.
Oui, on parlera aussi avec nos experts de ce dossier explosif qui est Casino, hein, avec le plan social enfin annoncé ce matin, entre 1200 et 3200 postes supprimés. C'est beaucoup, c'est le plus grand plan social en France depuis le début de l'année. Et puis si ça va mal chez Casino, en revanche, ça va bien, Thomas, dans l'ensemble, hein, sur le front de l'emploi. C'est ce que nous dit en tout cas l'enquête annuelle de France Travail qui prévoit encore de très nombreuses embauches cette année malgré la conjoncture.
Ouais, on va essayer de comprendre pourquoi l'emploi résiste à tout en France. On posera la question à nos experts ce soir. Jean-Marc Silvestre, éditorialiste à Atlantico, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13.
Voilà, un débat animé.
Ben oui, c'est bien la moindre
chose. A priori.
C'est parti.
À tout de suite.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance. Good Evening Business, le journal.
Et donc, ça y est, c'est le jour J pour Bruno Le Maire qui a présenté ce matin à Bercy son projet de loi pour simplifier la vie des entreprises. 50 mesures pour débureaucratiser, pour supprimer au maximum la paperasserie dans les entreprises. Le ministre s'est expliqué ce matin au micro d'Edwige Chevrillon à Bercy et il explique pourquoi ces mesures devraient marcher alors que tous ses prédécesseurs se sont cassés les dents pour simplifier en France. On l'écoute.
Toutes les propositions viennent du terrain. Elles viennent des patrons de TPE, de PME, des artisans, des commerçants, des indépendants. C'est remonté du terrain. Il y a eu des réunions publiques et une consultation très large par voie numérique qui nous a permis de faire attention à ce que nous disaient les patrons, les chefs d'entreprise, les indépendants. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un choc en une seule fois où on pense qu'on va tout régler, ça n'existe pas. Ça va être un mouvement de fond régulier. Et chaque année, vous aurez un nouveau texte de simplification pour s'assurer qu'on continue à avancer dans la bonne direction. Puis le troisième élément de méthode qui est nouveau, c'est ce fameux test PME qui nous a été proposé et demandé par les PME. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle norme, une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, on vérifiera que ça ne coûte pas trop cher pour les entreprises.
Voilà, Bruno Le Maire au micro d'Edwige Chevrillon. Interview à retrouver en exclusivité, en intégralité sur notre site internet et notre appli BFM Business. L'autre actu du jour, on vous le disait dans le sommaire, c'est Casino. Casino qui a dévoilé ce matin son plan de réorganisation, son plan social. Bonsoir Pauline Tadevin. Il y aura moins de suppressions de postes que ce que craignaient les syndicats, mais le plan social reste quand même très douloureux, Pauline.
Oui, ces derniers mois, les syndicats avaient eu l'occasion de le dire. Ils craignaient jusqu'à 6000 suppressions d'emplois sur la totalité du groupe. Ce sera au maximum 3200, nous dit la nouvelle direction de ce groupe Casino, sur le siège historique de Saint-Étienne, qui compte actuellement 1564 salariés sans les CDD. Un millier d'emplois est préservé, 554 disparaissent. Mais en tout, sur les fonctions siège, 1293 suppressions nettes vont avoir lieu. On compte donc les sièges de Franprix et de Monoprix. En région parisienne, ce qui se passe, pour être très clair, c'est que pour préserver le siège de Saint-Étienne, dont la direction avait dit qu'il allait préserver la pérennité, maintenir la pérennité, Bruno Le Maire d'ailleurs,
engagement pris, voilà merci,
avait annoncé qu'il serait très attentif à cela. Pour préserver Saint-Étienne, on y transfère des dossiers qui étaient gérés jusque-là dans les sièges de Monoprix et de Franprix en région parisienne. Ces sièges sont donc touchés par ricochet. À cela, il faut ajouter des suppressions de postes dans les magasins qui n'ont pas encore trouvé preneur, et aussi dans les entrepôts. On nous précise que ces chiffres-là peuvent encore évoluer si les magasins, par exemple, finissent par être revendus. Plusieurs réunions vont donc être organisées à partir de maintenant avec les syndicats pour préparer un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être finalisé, nous dit-on, au mois de septembre. En parallèle de ce plan, la nouvelle direction de Casino confirme aujourd'hui qu'il prévoit de réinvestir 1,2 milliard de dollars sur 3 ans. Il compte notamment embaucher des caissiers et des caissières dans les magasins qu'il garde.
Merci beaucoup Pauline Tadevin. Et puis par ailleurs, Casino a aussi confirmé ce matin la création d'une nouvelle centrale d'achat avec Intermarché et Auchan sur 10 ans pour tenter de créer la première centrale d'achat en France dans l'alimentaire. 19h05, on s'intéresse maintenant à l'actualité du secteur de la santé avec l'Europe qui lance aujourd'hui une alliance du médicament pour relocaliser au maximum la production sur le continent de médicaments critiques et pour lutter contre les pénuries qu'on connaît depuis la pandémie. Hélène Cornet.
Il y a une alliance européenne pour les batteries électriques devenue un impératif stratégique. Il y en a une désormais pour les médicaments critiques construite sur le même modèle. Alliance qui réunit toutes les autorités de santé, les industriels et les associations de patients. C'est le dernier échelon du plan de bataille de Bruxelles pour éviter les pénuries de médicaments, 600 molécules environ. Alliance qui pourrait donc sécuriser l'approvisionnement lors de commandes groupées, un peu à l'image de ce qui a été fait lors de la pandémie, rehausser le niveau des stocks obligatoires ou encore favoriser les relocalisations en Europe. Sur un système d'entraide entre pays, un État pourrait par exemple produire le principe actif et un autre le produit fini. Mais la Commission le sait, elle a finalement peu de marge de manœuvre concernant ces médicaments, essentiellement des génériques et essentiellement produits en Asie. Pour les industriels d'ailleurs, la seule vraie réponse aux pénuries est surtout de relever les prix en Europe pour rentabiliser au mieux leur production et les inciter à relocaliser.
Hélène Cornet, on revient à présent sur les très mauvais résultats publiés hier soir par Tesla. Vous l'avez vu, une chute du bénéfice de 55% au premier trimestre. Et pourtant, le titre Tesla aujourd'hui est en très forte hausse à Wall Street. Visiblement, Elon Musk a réussi à rassurer les investisseurs en annonçant la sortie plutôt que prévue de modèles abordables et l'arrivée dès cet été des prototypes de ces fameux robotaxis. Justine Bassogne.
Le robotaxi est l'avenir de Tesla. C'est la conviction d'Elon Musk dans les cartons depuis des années. Les cybercabs, comme il les appelle encore, seront dévoilés le 8 août prochain. Leur production démarrera fin 2025. Les livraisons devraient-elles débuter l'année suivante? Elon Musk envisage même que les propriétaires de Tesla, 100% autonomes, les fassent fonctionner comme taxi quand ils ne les utilisent pas. Un pari que certains jugent risqué, car si certains robotaxis, ceux de l'américain Waymo par exemple, circulent déjà dans les rues de San Francisco ou de Los Angeles, d'autres s'y cassent les dents. C'est le cas de Cruise, filiale de General Motors, qui s'est vu bannir de Californie après un accident et qui a dû se séparer d'un quart de ses effectifs. Tesla n'est pas beaucoup plus heureux avec ses systèmes de conduite assistée. Le constructeur a dû récemment rappeler 2 millions de voitures car son autopilote était jugé défaillant. Selon le Washington Post, il aurait été responsable de 40 accidents mortels depuis 2016. Tout cela n'empêche pourtant pas Elon Musk de penser qu'à terme, ces robotaxis généreront plus de profit que ces voitures électriques.
Justine Vassogne. Et puis pour finir, il se passe aujourd'hui un petit événement dans le monde de la tech, puisque c'est un Français qui prend la tête d'une des plus grandes entreprises d'Europe, ASML. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Thomas.
C'est quand même pas rien, un Français va diriger cette entreprise devenue incontournable dans le secteur des semi-conducteurs.
Oui, il s'appelle Christophe Fouquet, BFM Business. L'avait rencontré il y a 2 ans, il était alors directeur commercial. Voilà. Ça fait 16 ans qu'il est dans l'entreprise. Voilà, on est toujours en avance. Premier Français à la tête d'une entreprise d'envergure internationale et vous l'avez dit, une entreprise qui compte aujourd'hui dans l'univers du microprocesseur. On a les Nvidia, les Intel, les Global Foundries. Eh bien, il faut compter sur ASML. Alors ASML, ils sont au tout début de la chaîne. Ils reçoivent les matières premières, ils reçoivent les plaques et c'est eux qui vont imprimer avec leurs machines qui sont immenses les cartes sur lesquelles on va mettre ces processeurs et ils ont une très grande avance parce qu'ils peuvent descendre jusqu'à entre 2 et 7 nanomètres. Ce sont les spécialistes mondiaux dans le domaine. Alors pour vous dire quand même la taille d'une machine, Intel en a acheté une, c'est 6 mois pour l'emmener aux États-Unis en 2 compartiments, c'est 150 tonnes, c'est la taille d'un bus, 6 mois pour la paramétrer. Donc vous voyez, quand on achète une machine, On commence à la voir, voilà.
Ouais, un an plus tard.
Au bout d'un an. Alors, il arrive quand même, Christophe Fouquet, à un moment un peu charnière hein, aujourd'hui, puisque il y a quelques alertes. On a vu qu'il y a un petit trou d'air pour ASML parce que les clients ont acheté moins de machines cette année. Bien oui, ils anticipaient un peu moins de processeurs, hein, moins de ventes de processeurs. Mais il se veut rassurant. Il dit que 2024, ça va repartir de plus belle. Et puis, ils vont sans doute bâtir une autre usine. Hein. Il y a quelques jours, il y avait un petit chantage fait avec la ville d'Eindhoven en disant, et avec le gouvernement hollandais en disant, non, si vous ne faites pas un effort fiscal, on ne s'installera pas en Hollande, on ira peut-être en France, tiens, pourquoi pas. Bon, finalement, c'était vraiment un chantage, ils vont
bien sûr
rester à Eindhoven.
Ils restent à domicile. Merci beaucoup, Frédéric Simotel. 19h10, on va sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir à Paris. On abandonne un tout petit peu de terrain. Le CAC 40 se replie, se replie de 0,17% à 8091 points. Rebonsoir Étienne Braque.
Bonsoir Thomas.
Comment ça se passe à Wall Street aujourd'hui?
Bah écoutez, c'est du rouge avec un Nasdaq néanmoins qui arrive à se stabiliser hein, grâce notamment à Tesla hein, qui gagne 10% avec sa nouvelle voiture mystère qui devrait sortir dans les prochains mois, qui gomme un petit peu des résultats en dessous des attentes. Vous avez également Texas Instruments qui gagne quasiment 6%. Il y a un instant, on parlait d'ASML. Bah là, Texas est très confiant hein, grâce notamment à une reprise en Chine de l'électronique grand public. Donc après une période compliquée hein, suite à la pandémie, beaucoup de stocks, apparemment ça se reprend dans le secteur des semi-conducteurs. Boeing qui gagnait quasiment 2% à l'ouverture avec une perte moins forte qu'attendue et finalement dans le rouge avec un titre qui perd quasiment 1%. Et puis en tâche de fond, vous avez également toujours des tensions géopolitiques avec ça y est aujourd'hui Joe Biden qui a signé un décret concernant TikTok hein. Il y a plus que quelques semaines maintenant pour la maison mère Biden pour changer de propriétaire. Sinon, et TikTok sera interdit aux États-Unis. Donc, bien sûr, tout cela est propice à quelques prises de bénéfices après deux très belles séances aux États-Unis, que ce soit hier, mais aussi lundi. Vous avez le Dow Jones qui cède 0,3%, moins 0,2% pour le S&P, quand le Nasdaq est parfaitement stable.
Merci beaucoup, Étienne Braque. 19h11, on marque une pause et on retrouve Audrey Tcherkov et nos experts. On débat et on décrypte en direct jusqu'à 20h. Donc, good evening.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h13 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, merci d'avoir rejoint le plateau. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, bonsoir.
Bonsoir.
Et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne qui titre cette semaine cette enquête « L'avenir radieux des pétroliers ». On le montre
Marianne,
à
nouvelle formule.
Voilà, avec une enquête sur Total que je vous conseille de lire.
Bon. On remonte ça tout de suite à Emmanuel Lechypre après l'émission.
Voilà, exactement. Alors, c'est en kiosque. On commence avec ce projet de loi de simplification tant attendu, présenté par Bruno Le Maire ce matin. C'est un peu son bébé de 2024, même si il en parle depuis 2 ans. Donc 50 mesures pour en finir avec la paperasserie qui coûterait 3 points de PIB. C'est lui qui le dit par an à l'économie française, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes convaincu par son plan? Parce que je vous rappelle que c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreux engagements, mais aussi de textes de loi depuis un moment, du choc de simplification voulu par François Hollande à la loi Pacte, ça n'a jamais marché. Franck,
Moi, je pense que c'est parfaitement légitime de vouloir simplifier la vie des Français. Je constate, d'un point de vue de la communication, on ne va pas trop s'attarder, mais d'insister beaucoup sur les fiches de paie, où on enlève des lignes, mais on ne rajoute pas des ronds, c'est pas très malin, parce que les Français, quand ils regardent leur fiche de paie, ils sont pas angoissés par le fait de ne pas comprendre certaines lignes, mais plutôt par ce qui est en bas à droite.
Oui, mais justement, on rajoute pas des ronds. Si on récupère 3 points de PIB par an, ça va forcément avoir un effet de ruissellement sur l'ensemble acteurs de l'économie.
C'est vrai, mais dans un premier temps, c'est vrai que c'est peut-être pas la fiche de paie qui peut-être était la première des mesures à prendre, mais à la rigueur, je veux bien lui faire ce crédit. Moi, ce qui me gêne, c'est non pas le projet, mais c'est le commentaire du projet. Parce que le commentaire du projet, peut-être on va y avoir droit avec mon voisin en face.
Lequel être...
Ah oui, alors, pardon, Jean-Marc.
Oui, parce qu'ils ne sont pas tout à fait du même bord.
Absolument. Donc Jean-Marc, et c'est parfaitement son droit, et c'est très bien, hein, mais ça sera de dire, vous comprenez, la France est suradministrée, il y a trop de paperasses, c'est bien la preuve qu'il y a trop d'administration. Moi, je vous conseille un livre de David Gruber sur les bullshit Job, où il développe l'idée, c'était un chercheur, un grand chercheur qui est malheureusement décédé, et qui disait que ceux qui avaient inventé cet empire du process, cet empire de la norme, du ceinture et bretelles, du sur PowerPoint, de la, le fait de, au fil des responsabilités, de le diluer dans un immense magma de procédures, eh bien, ça vient du privé, ça vient du néolibéralisme, ça vient de toute cette école un peu du, je dirais, du monde des consultants, qui a été appliqué avec détermination par la haute fonction publique. Donc ce n'est pas, cette simplification qui est légitime, n'est pas le fait d'une suradministration. Elle est le fait, au contraire, paradoxalement, je dirais, d'une importation des méthodes du privé et des grandes entreprises qui administrent de façon aveugle.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord, mais allez-y, Thomas.
Haute fonction publique, McKinsey, même combat. Jean-Marc Absolument. Sylvestre, bon, donc là, on a Franck a planté le décor. Pour revenir de tout ça, est-ce que les 50 mesures proposées par Bruno Le Maire sont bonnes?
C'est à moi la question?
Oui, c'est à vous.
Non, parce que la réponse qu'il a faite pour moi est à moitié fausse.
Oui, non mais voilà, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? On a quand même envie de savoir ce que vous les experts.
Je vais tomber sur le projet, parce que c'est toujours bon à prendre, 50 mesures de simplification. Contrairement à ce qu'on dit parfois, ça peut réussir quand c'est bien fait. Audrey, je vous rappellerai qu'on a réussi une grande épreuve de simplification avec l'impôt à la source.
Oui.
Et je me souviens qu'à ce moment-là,
pendant
un an, on a tapé sur le dos du ministre de l'économie
qui s'en est très bien sorti,
à l'époque, et Gérald Darmanin. Ah, il a eu très très chaud,
et franchement qu'il a eu très chaud, et voilà. Bon, et ça a marché, j'allais dire du fond
du
Dieu,
ça
a bien marché sans problème, alors que tout le monde pensait, je me souviens encore de certains articles, je me souviens plus si vous étiez déjà à Marianne ou pas, où c'était le grand foutoir. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il a pris des précautions quand même. Il a négocié, contrairement à ce qui s'était passé auparavant, il a négocié avec tous les chefs d'entreprise. Donc, du côté des PME, du côté du patronat, on accepte un certain nombre de simplifications. Non, le grand défaut du truc, c'est que donc c'est cohérent. Et si ça marche, tant mieux. Mais sauf que c'est pas en simplifiant les lignes sur le bulletin de paye qu'on simplifie le modèle social. Là, vous aviez raison. Et c'est pas en simplifiant les procédures qu'on va alléger l'administration. L'administration derrière, elle reste. Ce pays, il a besoin d'un allègement global de tout l'État et de toutes les fonctions de l'État. Nous sommes avec un État qui est obèse. Et il est tellement obèse qu'il refuse de maigrir.
Oui.
Il refuse de maigrir. Ah, il va pas bien. Ouais. Il va pas bien. Il arrive pas de marcher. Il a du mal. Il a de l'arthrose partout. Mais il refuse de se faire soigner. Et se faire soigner, c'est de faire de la gymnastique, c'est de maigrir, c'est de diminuer le périmètre de l'État, c'est de faire en sorte qu'on s'inspire un peu des process du privé. Je veux même pas dire qu'on change de statut.
Oui.
Mais dans le privé, il y a la concurrence. C'est quand même assez stimulant, la concurrence, même dans le
service public. Non, mais c'est pour ça, voilà, exactement.
Et ça, c'est absent.
Ce que vous ne voyez pas, c'est que cette complexité, elle vient du privé.
Mais non, Franck, attendez,
vous êtes sérieux ou pas ? Le privé, il cherche de la productivité.
Franck, parce que vous pensez aux grandes entreprises, vous pensez aux entreprises cotées. Vous savez que le tissu économique... Oui, mais le tissu économique français, la réalité, c'est quoi ? C'est en grande partie des TPE et des PME. Est-ce que vous pensez que les patrons de ces petites et moyennes entreprises qui essayent par tous les moyens de boucler les fins de mois, qui font face encore à la pénurie de main-d'œuvre, qui est une réalité, ont les moyens de dépenser 8 heures par semaine, et c'est colossal, pour répondre au cadre réglementaire français.
Si le projet fait économiser ne serait-ce que 2 heures par semaine à des petits patrons, effectivement, qui se demandent à chaque fin de mois si ils vont poursuivre leur activité avec des responsabilités sociales et parfois même territoriales importantes, eh bien ça sera très bien comme ça. Je parlais évidemment des grands groupes du CAC 40 qui se sont finalement administrés. Voilà.
Benjamin Coria.
Écoutez, moi, mon point de vue, c'est le suivant. Que on prenne des mesures de simplification de la vie à la fois des Français et des entreprises, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai aucun souci avec ça. Je suis plutôt très favorable, parce que je veux dire, y compris dans nos vies, nous, citoyens, on voit bien. Il y a certains moments, c'est Kafka, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, mes deux réserves, si je peux dire, c'est que je ne crois pas du tout que ça aura un effet ne serait-ce que significatif sur la productivité. Ça, j'y crois pas.
Pourquoi?
Parce que je pense que le défaut de productivité, c'est pas du tout là qui gît. Vous voyez, c'est quoi une mesure administrative ou 50 mesures administratives lorsque, après 2008, dans un moment de récession, le souci principal qu'on a pour la BCE, c'est de revenir le plus vite possible à l'équilibre. Ce qui nous a fait perdre un nombre de points de PIB absolument incalculable et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, par comparaison avec les États-Unis qui ont fait l'inverse, qui ont fait de la relance, on a perdu le double hein, de ce qu'a obtenu les États-Unis. Donc, je veux dire, c'est un problème de, comment dire, du sparadrap sur une jambe de bois. Le vrai problème de compétitivité, il n'est pas là.
Oui.
Ça, c'est mon premier souci.
Ouais, ouais.
Mais par ailleurs, je suis tout à fait favorable. Hein. Je crois que c'est très clair. Hein. Mmh. Voilà. Aussi bien pour le petit patron qui aura beaucoup moins ou le paysan qui aura beaucoup moins de papier à remplir que pour les individus. Ça, c'est ma première réserve. Ma deuxième réserve, c'est que il va falloir regarder les mesures un peu de près. Parce que il y a des normes, notamment en matière d'alimentation, en matière de construction, sur lesquelles on a l'impression qu'ils veulent essayer de les supprimer.
Contourner.
Et là, moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je suis absolument pour, hein, tout à fait favorable.
Non.
Si.
Non. Non. Oui, non mais vous dites que c'est pas le sujet. Quoi.
Vous permettez. Non, mais je dis qu'il n'y aura pas d'effet de compétitivité.
Voilà. Donc vous dites que vous êtes pour, mais que ça ne va servir à rien.
C'est très clair. Parce que par rapport à d'autres mesures, c'est dérisoire à ce qu'il faudrait faire. Et je dis deuxièmement qu'il y a un certain nombre de domaines où il faudra faire attention. Et là, oui, je suis opposé.
Je suis désolé. Non.
Pardon. Non, mais Benjamin Coria, il pose la bonne question. Bruno Le Maire fait tout ça, c'est pour qu'à la fin, ça fasse de la croissance.
Oui, bien sûr.
Ça va faire de la croissance
et de la productivité.
Bien sûr. Est-ce que ça va faire de la croissance, ce projet de loi,
Ça ne fera sans doute pas de croissance si on ne réussit pas à réduire l'obésité de l'administration et de l'État. Et du personnel de l'État. Non, je ne suis pas d'accord parce que lui, il veut continuer d'augmenter l'obésité de l'État.
Non, pas du tout.
Il est totalement keynésien en disant on aurait dû faire du keynésianisme comme les Américains, on aurait dû distribuer de la monnaie, de la demande, et regardez, on aurait un taux de croissance très bien. C'est ça que tu dis.
Je dis que effectivement la politique monétaire et macroéconomique nous a fait perdre la moitié de la croissance américaine.
Je le répète.
Et d'ailleurs, l'ensemble des macroéconomistes sont parfaitement d'accord là-dessus. On a une politique ridicule.
Je suis pas sûr qu'on était capable de supporter trois fois l'endettement que nous avons aujourd'hui, ce que font les Américains.
Pour payer leur politique.
Non, mais ils ont une monnaie unique, Jean-Marc. La comparaison est quand même compliqué. Oui, d'accord. Mais avec une puissance un peu différente.
C'est l'unanimité sur le fait que l'Europe a eu une politique absolument contraire à ce qui était nécessaire. Eux-mêmes sont d'accord avec ça.
Non, mais d'accord.
Je vous enverrai les documents.
Non, mais juste, attendez, pardon. De manière très pratico-pratique, rester aujourd'hui à jour de l'évolution du cadre réglementaire en France, c'est quand même le vrai sujet des entreprises. Donc Bruno Le Maire l'a dit ce matin, c'est estimé à 8 heures par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Pour passer par les entreprises sur tous ces sujets administratifs. Alors, aujourd'hui, quand on veut changer l'adresse du directeur général d'une société, il faut donner la date et le lieu de naissance du commissaire aux comptes. Il y a encore 5 ans, c'était un formulaire avec 4 cases. On a besoin que les chefs d'entreprise passent ce temps-là à développer leur modèle, à aller chercher des clients. Donc ça va forcément avoir un impact sur la croissance.
Mais alors
peut-être mesuré, mais en tout cas sur la productivité.
Oui, c'est mesurable sur la productivité. La digitalisation sert à ça.
Enfin, moi, je maintiens mon point de vue. Je pense que c'est nécessaire. Il y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que ça n'aura pas... ce genre de mesure-là n'aura pas du tout l'effet escompté sur la croissance, parce que ce qui détermine la croissance, c'est des choses beaucoup plus lourdes que ça.
Voilà. Bon. Ce qui détermine la croissance, c'est la liberté des chefs d'entreprise, c'est leur capacité d'offrir au système des produits, des innovations, et de faire en sorte
ça en fait partie.
Franck De Dieu, Bruno Le Maire a quand même dramatisé un petit peu son propos ce matin. Il dit l'Europe risque un déclassement à cause de la bureaucratie.
Oui, non mais ça.
Voilà, c'est à cause de l'administration et de la bureaucratie que l'Europe risque d'être déclassée, de décrocher par rapport aux États-Unis et la Chine.
L'interprétation de cette.
Il en fait trop ou
non, mais dans l'interprétation de cette mesure, on voit bien, et notamment dans ce débat un peu vif, que se mêlent des désaccords sur des sujets qui n'ont pas le même périmètre.
Oui.
On peut, Audrey, dire c'est une mesure microéconomique qui est utile. Et qui est même utile pour le moral des gens au quotidien. Parce que c'est vrai que remplir de la paperasse, il y a quelque chose d'usant.
Personne n'aime ça.
Mais tout ça s'insère quand même dans une logique macroéconomique qui n'est pas tournée vers la croissance. Quand vous dites, Audrey, que les patrons, ils pensent beaucoup à se faciliter la vie et tout ça, vous avez raison, mais en ce moment où on vit un retournement de conjoncture, ils pensent aussi à remplir leur carnet de commandes. Ils pensent aussi à pouvoir payer
Mais justement, il y a faut du temps pour ça, Franck.
Absolument. La question est donc, comment articuler ce sujet microéconomique, où on est à peu près tous d'accord, et l'insérer dans quelle politique macroéconomique ? Là où Benjamin a raison, je crois, c'est que, au niveau des effets, il n'y a pas photo, pardonnez-moi cette phrase un peu triviale. C'est-à-dire que les économies, y compris psychologiques d'ailleurs, de cette simplification, ne sont rien à côté de ce choix fondamental qui a été fait il y a quelques mois, de se dire, pour rembourser la dette et remettre les comptes au carré, nous nous éloignons de la politique américaine de relance par la demande et nous décidons de nous lancer dans une politique austéritaire. Mais peut-être que dans...
Là, vous parlez du plan d'économie.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas les distinguer. Et d'autre part...
Il va arriver, ils vont arriver, les 50 milliards, Jean-Marc.
Oui, bien sûr, Jean-Marc, soyons vraiment objectifs là-dessus. Sans être...
Je n'arrête pas de l'être.
Sans vouloir, je dirais, mettre en scène nos propres désaccords, on peut le faire, et on le fait d'ailleurs bien volontiers. On le fait bien volontiers. Je pense que le sujet clé, c'est quand même celui-ci. C'est-à-dire qu'on peut demain dire « je défends l'austérité » et on est tous d'accord pour dire qu'il y a une forme de purge ou d'effet sur l'emploi qui se feront par la politique de l'offre dans 3-4 ans, on en récoltera les fruits. Moi, cette thèse n'est pas la mienne, mais je l'admets, cette thèse. Mais ce que vous ne pouvez pas dire, c'est de dire cette politique d'austérité, dans 3 mois, on récolte des fruits. Ça, c'est pas vrai. C'est historiquement jamais le cas. Après, on peut débattre dire, est-ce qu'une purge, ça prend 5 ans ?
Mais il y a
une génération, 5 ans. Alors, ils ont pris le Covid, ils ont pris les gilets jaunes, mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir attendre 5 ans. Moi, je peux attendre.
Il y a
des gens de la classe moyenne.
Justement,
qui
on en débat.
Il faut que vous admettiez. Il faut que vous admettiez que si on est endetté, c'est une partie de notre souveraineté que nous perdons. Avoir de la dette, c'est se mettre dans les mains de ceux qui nous prête de l'argent. Et c'est pas possible à terme. C'est possible quand on peut trouver du financement, mais ça risque de ne plus l'être d'ici quelques années si on ne fait pas un effort de réduction de cette demande de crédit. Donc, parce que sinon, on est foutu. On est pris par...
On va voir ce que vont dire les agences de notation.
On est en train, on est en train de ranger la vaisselle, de faire le ménage dans la maison, mais on met tout dans l'arrière-cuisine, c'est le bordel, mais on s'en occupe pas. Donc, l'administration, l'État, peut continuer de fonctionner, de faire son truc,
Non mais alors attendez, parce que trouver des économies c'est une chose, aller chercher la croissance ça en est une autre, et forcément c'est aussi un sujet de compétitivité, puisque pourquoi l'IRA américain marche aussi bien ? Mais parce que ça prend 4 jours de s'implanter sur le territoire américain, et c'est 4 formulaires
mais
ça en fait partie, Benjamin.
On a mis 900 milliards de dollars, je veux dire, il y a l'histoire,
il y a les subventions,
mais il y a la masse.
Tous les patrons,
Benjamin, vous le savez aussi bien que moi, ça prend deux fois plus de temps de s'installer en France qu'en Allemagne. On a intérêt à simplifier tout ça pour une question de croissance.
On est d'accord. Je veux dire, il faut simplifier, nous sommes d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de ça ? Bon, c'est tout, c'est ça la question. Et ce qu'on peut attendre de ça, c'est zéro, ou extrêmement peu de choses par rapport à d'autres mesures. C'est ça le point. Maintenant, sur les questions de simplification, en tout cas pour ce qui concerne les grandes entreprises, il faut quand même bien avoir en tête que les grandes entreprises, pour de multiples raisons, elles savent se compliquer la vie par elles-mêmes, toutes seules. Je vais vous recommander un livre qui est paru il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle... On a clear day, you can see the General Motors. Par temps clair, vous pouvez apercevoir la General Motors. Tellement, je ne veux pas dire le mot, tellement c'est le bazar. Voilà. Ça ne lui a pas réussi. D'un autre côté, ça ne lui a pas réussi.
Pour conclure, Florent.
D'un autre côté, regardez les ennuis de Boeing. Force de vouloir simplifier, doubler, etc. Aujourd'hui, ils n'ont plus un avion qui est autorisé de voler. Donc, il faut être prudent.
Avec les normes. Effectivement, fais pas n'importe quoi avec les normes. Ce sera le mot de la fin.
On est prudent aussi avec le timing, c'est le rappel des titres.
Provisoire.
Provisoire, la mi-temps.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business. Jean-Marc Sylvestre, Franck Dedieu et Benjamin Coria sont avec nous. On va parler d'un chiffre plutôt positif, une fois n'est pas coutume, puisque l'emploi se porte bien. L'enquête annuelle de France Travail, publiée ce matin avec le Crédoc, nous dit que les intentions d'embauche dans le privé pour 2024 restent à un très haut niveau, alors qu'il n'y a quasiment plus de croissance dans le pays. Comment est-ce qu'on explique ça, Franck Dedieu?
Ah, ça, c'est l'énigme économique d'il y a 6 mois. Alors, bon, pour vous, c'est pas une énigme, Jean-Marc, puisque vous êtes un...
Jean-Marc va nous apporter la réponse à l'énigme.
Économique brillant. Mais comment expliquer cela? C'est vrai que les gens, on leur dit, bon, on a tout le temps pensé qu'il y avait une sorte de lien obligatoire entre la croissance et la baisse du chômage. Il se trouve que là, les deux...
Bah, c'est assez logique.
Voilà. Mais les deux, espèce de croissance stagnante et d'emploi qui se porte bien, cohabitent. Je crois que c'est lié à on a des gros problèmes de gains de productivité, de sorte que les gens qui entrent sur le marché du travail ne sont pas forcément ceux qui sont les plus productifs. Ouais. Mmh. Et puis, il y a une question, on en reviendra toujours à cette question plus macroéconomique, c'est qu'on a cru beaucoup, lorsqu'il y a eu l'inflation, à cette fameuse boucle salaire-prix, où on disait, on ne va pas augmenter les salaires pour ramener les pouvoirs d'achat.
Qui n'a jamais eu lieu. Hein.
On n'a pas eu ça.
Et ça n'a jamais eu lieu. Mmh. Et donc, à partir du moment où vous avez quelque part, l'idée de maintenir des salaires qui sont dépressifs, alors même que la pression sur le marché du travail autoriserait des augmentations de salaires, que vous n'avez pas suffisamment de gains de productivité, eh bien, vous avez une cohabitation assez étrange, assez singulière, entre un marché du travail qui se porte plutôt pas mal, encore que ça serait à relativiser, et puis une croissance très atone.
Benjamin Coria, c'est étrange.
Non, mais moi, si j'ai bien lu le rapport, en tout cas ce que j'ai pu en trouver, c'est les prévisions d'embauche.
Oui, ah bah oui.
Bonnes.
2,8 millions de projets de recrutement pour 2024.
Empiriquement, 80% des intentions d'embauche se concrétisent.
Oui, la première chose à dire, je veux pas jouer les troubles faits, mais il faut bien savoir de quoi on parle. Alors, les prévisions d'embauche sont bonnes, mais elles sont en retrait de 22% par rapport à l'année dernière.
Bon. C'était 3 millions l'an dernier, 2,8 millions cette année. Ouais. On reste à haut niveau, c'est ça qu'on veut dire. Quoi. Voilà, ça recule, mais on reste à haut niveau. C'est plus qu'avant le Covid.
Les chiffres que j'ai lus, c'est que c'est en retrait de 22%. Bon. Donc, c'est très bien qu'elle se maintienne. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Ce qui a été dit par Franck tout à l'heure est tout à fait juste. Les emplois se créent pour l'essentiel, pour le moment, dans du service, dans lesquels la productivité...
Oui, c'est ça, parce que 2 projets de recrutement sur 3, c'est dans les services.
Eh bien oui, dans lesquels la productivité est extrêmement faible. Et donc, je veux dire, même avec une croissance qui n'est pas très grande, ça absorbe davantage de gens. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, s'agissant de... prévision d'emploi, on sait que les entreprises qui ont besoin notamment de main-d'œuvre qualifiée ou de main-d'œuvre très peu qualifiée compte tenu des conditions de travail et de salaire, ne trouvent pas de gens. Ouais. On peut imaginer, moi j'en sais rien, puisque je n'ai pas vu le rapport suffisamment en détail et je ne sais pas s'il va là-dedans. On peut se demander si une partie n'est pas un simple report d'une main-d'œuvre qui n'arrive pas à trouver. Un certain nombre d'entreprises, et je crois que c'est pas faux, se plaignent du fait qu'elles n'arrivent pas.
Alors, ce que dit l'étude, c'est qu'on a entre 300 000 et 500 000 postes l'an dernier qui n'ont pas été pourvus.
Voilà. Ouais. Donc, une partie, c'est du report. En tout cas, moi, l'explication que je vois, parce que la croissance se porte pas si bien que ça, pour le moment.
Non, mais justement, c'est la question qu'on pose. On a l'impression que, quelle que soit la conjoncture, l'emploi résiste en France.
Oui, parce que
essaie de comprendre pourquoi.
Moi, les deux explications que je vois, c'est celle qui a été donnée sur la productivité et les services. Et la deuxième, c'est une difficulté à recruter qui perdure dans un certain nombre de métiers parce qu'il n'y a pas soit la main-d'œuvre qualifiée, soit des conditions d'accueil pour la main-d'œuvre moins qualifiée, qui soit suffisamment attractive. Notamment, on sait qu'après le Covid, il y a un certain nombre de gens qui ne sont plus d'accord pour reprendre les boulots qu'ils avaient avant.
Oui, oui, absolument. Et puis, il y a aussi une question de secteur, hein, parce que dans la construction, évidemment, ça se porte très mal. Mais en revanche, les activités financières et d'assurance tirent très bien leur épingle du jeu. Jean-Marc Sylvestre, vous avez une autre explication.
Non, je suis d'accord sur la première explication.
Avec Benjamin.
Le marché de l'emploi est tendu.
Ça arrive, hein,
parce que c'est
une tension de pénurie. Le marché de l'emploi est en pénurie. On est en pénurie d'emplois, en qualité et en quantité, et dans les régions et l'adéquation. Mais sur la deuxième explication, c'est-à-dire l'énigme qui inquiète Franck de Dieu, je crois qu'elle est totalement influencée par sa culture keynésienne. Je reviens à ma
Ah, il en veut à Keynes, hein.
Parce que c'est pas la croissance qui crée l'emploi. C'est l'emploi qui crée la croissance.
Ça, c'est la fameuse théorie, on pourrait en parler pendant des heures.
C'est l'emploi qui crée l'emploi. Si nous avons de l'emploi de qualité, de l'emploi innovant, de l'emploi qui va permettre de créer des activités, on va faire de la croissance.
Mais vous
croyez... Et on se trompe en pensant que l'emploi est faible alors que la croissance...
C'est-à-dire que l'emploi en ce moment n'est pas de très bonne qualité vu le niveau de la croissance.
L'emploi n'est pas assez de bonne qualité et il est insuffisant dans certains secteurs.
Alors Franck,
Si on avait de l'emploi, si on avait des formations qui conviennent pour faire moi, on pourrait impacter.
Oui. La réponse de Franck de Dieu.
La formation, c'est extrêmement important. Mais Jean-Marc, vous croyez.
Donc vous voulez de la croissance, mais la croissance, elle ne tombe pas.
Attendez, le laisse répondre, Franck, allez-y.
Je suis modestement l'exégèse de Jean-Marc Sylvestre, mais quand même, il m'écoute, même à ce moment-là.
Allez-y.
Non, mais c'est qu'il croit.
Il croit.
À la vérité du marché. Mais il y a quand même un marché.
Mais je n'ai pas parlé de marché.
Alors attendez, laisse Franck aller jusqu'au bout de la réflexion.
Du travail.
Oui.
Oui.
Et si vous avez des pénuries de demande, effectivement, nonobstant la question de la qualification, eh bien ça devrait augmenter les salaires. Ouais. S'il y a une augmentation des salaires, moi, je veux bien croire à la politique de keynésienne, de cause à effet, mais normalement, vous devriez avoir rapidement un peu de croissance.
Eh bien, vous avez eu des augmentations de pouvoir d'achat depuis
Il n'y a pas eu suffisamment d'augmentation de salaire, en particulier pour les classes moyennes, qui sont quand même le gros du marché des employés et des salariés. Ouais. Donc, je pense que l'énigme vient aussi du fait que nous faisons coïncider des pénuries d'emplois qui n'augmentent pas les salaires lorsque c'est des emplois relativement qualifiés.
Regardez la façon dont est calculé votre indice de pouvoir d'achat. Il inclut tout ce qui se passe dans la fonction publique et dans les retraites, ce qui fait qu'il tire l'analyse vers le bas. Si vous regardez ce qui se passe dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises du CAC 40, vous avez des augmentations de salaires qui sont très importantes, y compris et même dans les entreprises de PME. Parce que l'entreprise qui est dans le digital, l'entreprise qui a besoin de main-d'œuvre, elle paiera. La restauration, elle a fait un effort pour pouvoir trouver des gens pour pouvoir servir dans les restaurants, sinon elle fermait les restaurants.
Non, mais alors d'accord, mais est-ce que ces chiffres marquent un changement conjoncturel? Parce que en 2022 et en 2023, les intention d'embauche était portée par de nouvelles activités, alors qu'en 2024, c'est le surcroît d'activités qui a pris le relais, Benjamin.
C'est ce que dit la statistique. Et effectivement, ça, c'est moyennement encourageant. La question de qu'on débat, il y a aussi ce qui a été évoqué à un moment, le fait que le rattrapage en termes de pouvoir d'achat par rapport à l'inflation, il a été très 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 inégal. Hein, ça veut dire que dans les grandes entreprises,
on est tous d'accord,
on s'en est tiré, et dans beaucoup d'entreprises, pas du tout. Et donc, de ce point de vue, cet abaissement relatif du coût du travail appelle à recruter du travail. Pour les économistes, c'est élémentaire. Donc, c'est encore un élément conjoncturel. Ceci dit, on y verra plus clair quand on aura le taux de croissance de 2024. Mais moi, je suis le taux de croissance de l'emploi ou l'évolution de l'emploi. Mmh. Moi, je suis pas convaincu que ces hirondelles annoncent un véritable printemps. On va voir. Hein.
C'est sûr que les créations d'emplois en net sont attendues à un niveau beaucoup plus faible que ce
qu'on
était.
Et
c'est normal. On sortait d'un effet de rattrapage post-Covid.
Non, mais
là,
c'est pour ça
qu'on
peut pas raisonner sur un mois. Hein, on verra plus clair dans quelques mois. Moi, je ne sens pas, mais j'avoue que
votre intuition d'économiste
c'est subjectif. Ouais. je sens pas.
Mais alors, le mot de la fin quand même là-dessus, on voit qu'on parle encore et toujours de métiers en tension et de pénurie. Est-ce que ça donne du grain à moudre au gouvernement pour sa nouvelle réforme de l'assurance chômage? Est-ce que vous croyez qu'on va résorber une partie de ces pénuries en durcissant les conditions de l'assurance chômage?
Oui, sur les règles d'indemnisation, en fait, des demandeurs d'emploi qui ne seraient pas assez incitatives.
Moi, j'en crois pas un mot. Hein. J'en crois pas un mot. Je pense que ce qui est implicite là derrière, c'est que les chômeurs ont choisi de l'être et que en durcissant le régime, comme par miracle, ils vont se précipiter sur le marché de l'emploi et qu'ils vont trouver de l'emploi. Alors là, je prends date. L'effet de cette mesure sur la création d'emplois, il sera absolument nul. Absolument nul. Je prends date. Okay. Je prends date.
C'est très clair, Jean-Marc.
Non, j'ai pas beaucoup d'avis. Le seul avis que j'ai, c'est que je regrette que le gouvernement ait repris la main sur cette négociation et qu'il empêche le système.
Le paritarisme.
De fonctionner.
D'accord avec ça.
Mais je veux dire que les partenaires sociaux font pas un gros effort non plus pour récupérer le pouvoir. Ils pourraient le faire.
Franck de Dieu.
Moi, je me demande si les Français, finalement, à l'inverse de nous, ont peut-être très bien compris la question de cette énigme entre croissance faible et pénurie sur le marché du travail, parce que c'est une question, hein, je voudrais pas être trop péremptoire, mais lorsque le gouvernement a largement légiféré et parlé de plein emploi, moi j'appartiens à une génération où c'était le symbole soit de la crise, soit de la reprise, soit de l'expansion. On appréhendait l'économie et même plus généralement notre future vie de consommateur et de producteur à l'aune de ce seul critère. Rappelez-vous, François Hollande en a fait même l'alpha et l'oméga de toute politique. Aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on s'approche du plein emploi, à peu près.
Enfin, on commence à s'en éloigner. Hein.
Mais oui,
oui alors, c'est ça.
Bah, non, mais on a une courbe qui s'inverse.
C'est le résultat de l'éloignement.
Depuis,
là. Ouais.
Depuis 7 ans, le chômage a baissé. Pourquoi finalement? Si le plein emploi était l'alpha et l'oméga d'une société consumériste d'aisance, pourquoi ça ne se traduit pas dans le moral des Français? Normalement, on devrait dire, si on avance vers le plein emploi, on devrait être tous à faire la fête, à consommer, à moins épargner, etc.
Non, mais en même temps, Franck, on a une guerre aux portes de l'Europe, on a eu une crise inflationniste, on a eu la crise de l'énergie.
Vous voyez bien.
Le moral des Français est plombé par tout ça.
Vous voyez bien que cette martingale de mots composés, plein emploi, qui, il y a quelques années, aurait été véritablement
un
sésame, aujourd'hui, ça ne prend plus dans l'opinion. Ça ne prend plus.
Ça, c'est vrai.
C'est un sujet de sociologie politique.
Mais raison. Le vrai marqueur, c'est le taux d'épargne. Le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé historiquement. On est même champion du monde. On est à 18 ou 19% du revenu disponible. Vous vous rendez compte? 19%.
Là, on parle de la tendance macroéconomique. On va finir sur un cas bien particulier qui fait la une des journaux depuis des mois, c'est Casino. Puisque là, ça y est, on est fixé sur l'ampleur des dégâts. Le plan social a été annoncé ce matin aux salariés. Il y aura entre 1200 et 3200 suppressions de postes dans le groupe. Que vous inspire cette déconfiture d'un ex-fleuron français, les uns et les autres?
Premier point, qu'une entreprise, c'est toujours fragile. Et a tendance de beaucoup de patrons d'entreprise et même de beaucoup de salariés ont tendance à penser que une entreprise c'est immortel. Ben c'est pas immortel, ça s'écrase et le Casino s'est écrasé vraiment et a fait beaucoup de bruit. C'est dangereux pour les salariés puisqu'ils vont payer combien, je crois 3-4 000 suppressions d'emplois. C'est dangereux pour les actionnaires parce que les actionnaires ils sont ramassés complètement.
On va commencer par Jean-Charles.
Et un certain nombre de banquiers. Oui, mais c'était coté en bourse tout ça. Hein. Donc il y a beaucoup d'actionnaires qui vont. Bon, ça c'est la première remarque. Et il faut jamais oublier que c'est très très fragile. Une erreur de stratégie, une erreur d'appréciation. Et je pense que la responsabilité du conseil d'administration et de Jean-Charles Naouri, elle est importante, même si la conjoncture ne prête pas. La deuxième réflexion, c'est que je m'aperçois que le secteur de la distribution est sans doute en train de changer de paradigme.
Ah, ça c'est clair.
Et qu'il ne peut plus aujourd'hui par la taille fabriquer de la productivité qui lui permettrait de financer sa croissance. La France a une particularité, c'est qu'elle a inventé un secteur de la distribution qui n'est pas la grande entreprise. C'est un secteur de la distribution qui sont une assemblée d'indépendants.
Ah ben ça dépend, vous avez les deux modèles.
Chez Leclerc.
Oui, vous avez les deux modèles, les franchisés et le groupe intégré.
Les franchisés, les indépendants, ils se débrouillent. Parce que la productivité est sans doute faite au niveau de la centrale d'achat et que chaque type, dans son magasin, eh bien,
il gère sa boutique avec des critères de management beaucoup plus rigoureux que
ce qu'il est. Alors, ceci dit, 1300 à 3200 suppressions d'emplois potentielles. Je vous rappelle qu'on parlait du double, on parlait de 6000 suppressions d'emplois avant la reprise en main des nouveaux actionnaires. Benjamin Coria, est-ce que vous dites que ce plan social, c'est indispensable pour maintenir le groupe en vie?
Bon, moi, j'ai deux remarques. La première, c'est par rapport à ce que dit Jean-Marc, et là, je suis en désaccord total. Oui, bien sûr, la vie économique, elle est risquée, etc. Et donc, aucune entreprise n'est assurée de vivre. Mais dans le cas de Casino, d'une certaine manière, c'était écrit, hein, parce que c'est un groupe qui a été acheté et construit portant la dette sur les entreprises.
Et une responsabilité, et des banques et des commissaires aux comptes.
C'est un modèle absolument catastrophique et qui fait florès et qui correspond à la financiarisation de l'économie et à cette économie libérale que Jean-Marc aime tellement.
Et qui a été porté par des enfants de la gauche.
On n'aura pas le temps, c'est un autre débat.
Ça m'est égal. C'est des instruments typiques du capitalisme financier et du néolibéralisme, et ça s'est effondré. Et vous êtes placé pour savoir qu'il n'y a pas que cette entreprise qui est concernée, il y en a d'autres qui vont suivre et qui sont en train de suivre. Donc je veux dire, ça fait partie de la faillite de la période néolibérale qu'on vient de traverser et que Jean-Marc voudrait tellement protéger.
C'est un LBO qui craque. Prolonger.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les salariés payent la note. Bon, alors, ce qui est très inquiétant, moi, je ne cache pas que je suis très inquiet, parce qu'on commence par annoncer entre 1200 et 3000, bon, il y a 300%, pour commencer. Après, on verra. Donc, il y a vraiment lieu de s'inquiéter.
C'est parce qu'il y a 30 super et hypermarchés.
Mais oui, mais oui. Donc, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils vont devenir. Oui, d'accord. Mais je veux dire, on commence déjà par provisionner, si je peux dire, hein. Et on annonce. Donc, voilà. Moi, je suis très, très énervé. Je suis très en colère parce que.
Vous voudriez qu'on fasse des magasins d'État?
Non. Je voudrais qu'on ne permette pas ces pratiques de rapine qui consistent à acheter des groupes entiers sur de la dette et à faire porter la dette sur l'entreprise, c'est-à-dire en vérité sur les salariés pour l'essentiel.
Oui, alors d'accord, Benjamin.
C'est des choses mais qui
la nouvelle direction confirme quand même 1 milliard 200 000 euros de 100 millions d'euros qui vont être réinvestis sur 3 ans.
Forcément.
Oui, et donc on voit bien qu'il y a une volonté quand même de maintenir et le groupe en vie et les emplois.
Oui, Franck. Moi je suis assez Franck d'accord avec vous. Normalement, vous avez tous les deux dénoncé les excès de la financiarisation sur la dette. Moi, j'y verrais, en plus, je partage vos avis, une sorte de double symbolique économique, financière, mais aussi politique dans ce cas Casino. Parce que d'abord, c'est Casino, il y avait quelque chose de très populaire aussi, quand même. Hein. Et la ville de Saint-Étienne va payer un très lourd tribut, qui est une ville aussi dont on a beaucoup parlé avec le club de foot, etc.
Alors, Daniel Kretinsky s'est engagé à ne pas fermer le siège et à maintenir le plus d'emplois à Saint-Étienne.
Il perd un tiers des emplois.
Un tiers des emplois. Et puis, deuxièmement, vous avez symboliquement les magasins qui ont vocation à rester et à se développer sont des magasins qui ne sont pas véritablement fréquentés par la classe populaire. Naturalia, Monoprix, ce sont des Franprix, ce sont plutôt des magasins. Donc il y a une sorte de double symbolique financière et puis politique aussi avec Saint-Étienne et puis
sociale.
C'est quand même un bout de France, ça aussi.
Le message est passé, il est très clair. Merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Place aux arrêts de jeu, l'extra time de Good Evening.
Oui.
Vous avez les uns et les autres 30 secondes.
Voilà, on le répète, c'est 30 secondes, Jean-Marc.
Au coup de foudre.
Le mien ?
Oui, on commence par vous. Alors attention, hein, on rappelle qu'il y a une alerte, une alarme qui se met en place.
Ah oui, un petit coup de gueule sur Nicolas Terry, qui est le président du Crédit Mutuel et qui s'en va et qui renonce à son chèque de départ.
Oui.
2,4 millions.
Ok.
Il faut vraiment qu'il ait quelque chose à se reprocher parce que.
Attendez, on peut lui laisser le bénéfice du doute, non ?
Carlos Tavares n'a pas renoncé à sa prime de salaire.
Mais parce que l'argent n'est pas le moteur forcément de tout le monde, Jean-Marc.
Je trouve que c'est pas lui qui s'est fixé lui-même. Il a un conseil d'administration et le Crédit Mutuel, ça appartient aux mutualistes. Ils ont dû parachever ce truc. Non, je trouve que c'est un très mauvais exemple.
De mettre l'intérêt général avant ses intérêts personnels.
Il sait pas c'est un mauvais exemple. Là, il ne sait pas
c'est intéressant.
Bon, vous dites que c'est de la démagogie, quoi. Pour résumer, voilà. Benjamin Coria.
Moi, j'ai de la suite dans les idées. Alors, au cours d'un précédent, une précédente émission, j'avais fait un coup de gueule sur le fait que la Macronie et les représentants français au Parlement européen avaient bloqué la passation d'une loi en ce qui concerne la reconnaissance du statut de salarié par les gens des plateformes. Eh ben, ils ont été battus parce que là, l'Union européenne vient de voter une loi qui n'est pas merveilleuse, mais sur le principe, elle permet de beaucoup faire avancer les choses en introduisant la possibilité d'une présomption légale de salariat et donc qui va permettre à 5 millions de libéraux, de, s'ils le souhaitent, de passer salarié. Voilà.
Et pour vous, Franck ?
Alors, moi, c'est un peu triste. C'est le redressement judiciaire de Duralex, hein, le Verrier, le célèbre Verrier. Et c'est vrai que on pouvait imaginer que, si vous voulez, il fallait payer des factures énergétiques qui étaient très, très, très élevées et en forte augmentation et qui ont eu raison de la santé de ce groupe. Pour le gouvernement, il y a effectivement l'idée d'un coût économique, mais il y a aussi l'idée d'un coût politique. C'est-à-dire que, quelque part, il faut pouvoir payer parfois, sauver des fleurons qui ont une valeur symbolique. Moi, je me rappelle, à la cantine, les verdures
c'était
à lait.
C'était notre enfance.
C'était notre enfance. Oui, et pour la plupart des Français, c'est notre enfance. Et les Français, eh bien, ils ne regardent pas qu'ils n'ont pas un bilan comptable lorsqu'ils parlent de Duralex.
Ah oui.
Ils ont des réminiscences du passé.
Alors,
ils
ont
bien voilà. Ils
sont dans des casinos morts.
C'est dit.
Pleure sur Duralex, il a raison.
Le message est passé. Merci, merci, merci à tous les trois. Franck Dedieu, Benjamin Correa, Jean-Marc Sylvestre. Et merci à Audrey Tcherkov.
Mais merci à vous, Tom Sass, votre nom de scène sur les réseaux sociaux.
Oui.
Merci à vous qui nous avez regardé. Écoutez, si vous voulez retrouver le débat, c'est en replay, ça s'affiche sur vos écrans. Sinon, c'est bfmbusiness.com et en podcast. Si vous voulez aussi connaître l'avenir radieux des pétroliers, eh bien, c'est Marianne et c'est en kiosque. On vous dit aussi pourquoi on ne danse plus. Et c'est une question importante.
Ah, ben c'est une question très importante.
Absolument.
Voilà, la réponse dans Marianne. Merci à tous. Dans un instant, Frédéric Simotel. Tech & Co, toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business jusqu'à 21h30 et 21h30, 22h. BFM Crypto, Amaury Tonquédec. À demain.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.